Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans cette toute première chronique jeu du mois de 2019. Bonne année à tous, hein. Je suis comme d'habitude pour cette nouvelle année accompagné de Cyrus. Salut Cyrus.
Salut Benofix. Et ben bonne année à tous.
Effectivement, j'espère que votre réveillon s'est bien passé, que vous en êtes bien remis et que vous attaquez 2019 sous les meilleurs auspices. Aujourd'hui, bah, comme d'habitude, on va vous parler de deux jeux. Hein. 2019, ça change pas malgré cette nouvelle année.
C'est ça, on change pas une formule qui gagne.
Tout à fait. Moi, je vais vous parler de Solenia, un jeu de Sébastien Dujardin chez Pearl Game. Et toi, Cyrus, tu vas nous parler de... Et
moi, je vais vous parler de Crime Hotel.
Crime Hotel. Que de mystère.
N'est-ce pas? Un mystère criminel. Nous allons tenter de... Alors, pas d'élucider le mystère, on va tenter de retrouver le meurtrier, en fait, qui s'est barré. Parce que visiblement, le meurtre a eu lieu, c'est sûr, il n'y a pas de problème.
Ah, vous avez trouvé le cadavre.
Ça doit être ça.
Avant d'attaquer sur ces deux jeux, est-ce qu'il, Cyrus, il y avait des commentaires sur la précédente émission? Donc, on a parlé la dernière fois de Just One et de L'île au trésor.
Bien, tout à fait. On a eu des commentaires. On a eu un premier commentaire de Marc Paquin, qui n'est autre que l'auteur de L'île au trésor, et qui répondait à certains aspects cités dans la chronique. Hein. Donc, il disait que les coups bas pouvaient arriver dans les discussions entre les pirates. En gros, tu peux pas faire des coups bas directement, en tout cas mécaniquement dans le jeu, c'est pas possible. Mais lui, il dit que voilà, c'est possible via les discussions entre les pirates. Il dit rien de plus plaisant que d'arriver à mettre le doute chez le voisin, soit en sacrifiant une action, donc effectivement, on n'est pas anodin, ou juste à base de tchatch fourbe de pirates. Voilà.
Et il y a Julien aussi qui nous a laissé un commentaire concernant Just One, où il dit qu'on aurait pu faire le parallèle avec When I Dream, donc, dont on vous a déjà parlé, je crois.
C'est ça, oui.
Donc When I Dream, par rapport à Just One, effectivement, c'est aussi un jeu où il faut faire deviner des mots à un joueur en donnant des indices, des mots uniques comme indices. Et il trouve qu'il y a un peu plus de subtilité dans When I Dream, pardon. Parce qu'il y a l'histoire
des
rôles, les rôles cachés, donc la fée qui doit faire deviner le mot, le croque-mitaine qui doit essayer de détourner le joueur pour qu'il trouve un mauvais mot, et le marchand de sable qui équilibre un peu les forces, puisque lui, il doit essayer de faire en sorte que les fées et les croque-mitaines gagnent autant de mots l'un que l'autre. Ouais. Alors, effectivement, il y a un petit parallèle sur le... Bah, c'est un jeu où il faut deviner des mots, hein, c'est cette grande famille de jeux où il faut faire deviner des mots. Après, c'est assez différent quand même dans l'esprit, je pense. Dans la mécanique.
Oui, je suis d'accord. En fait, quand on essaie de faire des parallèles dans cette chronique, en général, on va chercher des jeux soit qui ont un feeling assez identique, soit qui se basent sur des mécaniques similaires. Là, en l'occurrence, en fait, When I Dream, oui, c'est le même principe de jeu, faire deviner des mots, mais en fait, en dehors de ça,
les sensations sont très différentes.
Ouais. Déjà, c'est un compétitif, c'est pas un coopératif. Alors oui, il y a des équipes, mais on joue pas vraiment en équipe, quoi.
C'est ça. C'est des équipes mouvantes.
Donc voilà, pour répondre à Julien. Ensuite, il y a Mathias qui dit qu'il trouvait le nouveau nom, Just One, qu'il trouvait que c'était un peu naze. Il trouvait que ça ressemblait à une chanson pourrie de boys band.
Ouais, par rapport à l'ancien nom, enfin à la première édition qui était We Are The World.
C'est ça, exactement. Ouais.
Mais qui, pour le coup, est un titre de chanson, pas de boys band, mais qui est un titre de chanson.
qui est un titre détourné, quoi. Effectivement.
On a un dernier commentaire aussi de Twin. Et oui, parce que une émission sans commentaire de Twin, je ne sais pas si ça existe sur la dernière saison, sur cette saison en tout cas, et sur la dernière. Donc Twin se pose une question pour Just One, mais qui se pose pour tous les jeux d'ambiance coopérative. Si on veut jouer vraiment l'optimisation, vraiment essayer de faire le score max. Les joueurs ont tendance à créer des petites, alors peut-être pas des règles, mais des petits,
des petites conventions
pour vraiment s'entendre et gagner plus facilement la partie, en tout cas le score maximum. Donc il dit que c'est le cas notamment à The Mind ou à Anabi. Après, effectivement, il rajoute que c'est un peu anecdotique parce que, bon, finalement, ce genre de jeu, l'essentiel, c'est de s'amuser. Finalement, le score, on l'a dit dans l'émission, ça a une importance assez secondaire au final.
Oui, ben, clairement. Surtout dans les coopératifs. Chacun peut ensuite jouer un peu comme il veut, évidemment. Si le but du groupe, c'est de vraiment réussir à atteindre les 13 points et qu'ils ont envie de mettre des conventions entre eux, bon, voilà, ben, qu'ils le fassent, quoi. Mais effectivement, ça, c'est plus tout à fait dans l'esprit du jeu. Et puis, Après, voilà, est-ce que c'est vraiment l'essentiel, voilà. On vous laisse juger.
Ok, bah, je crois que c'était tout pour les news. Hein. Mm-hmm. On va passer au jeu. Je te laisse commencer, Cyrus.
Eh ben, écoute, c'est parfait.
On va parler de Crime Hotel. Allez.
Donc, Crime Hotel, c'est un jeu de Tsutsumu Kawasaki. C'est un jeu qui a été illustré par Christopher Matt avec Yann Powell à la direction artistique. C'est un jeu qui a été édité par Happy Baobab et c'est annoncé pour 3 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes à partir de 8 ans.
Donc un éditeur sud-coréen.
C'est ça, exactement. Un éditeur sud-coréen qui a quand même pignon sur rue, on va dire, en France. Puisque,
ouais, qui est bien distribué en France, effectivement.
Oui, c'est ça. Parce que je crois que derrière, on trouve... Enfin, il y a Emmanuel Beltrando qui prend partie dans Happy Baobab et Mathieu Despnous, si je ne dis pas de bêtises.
Je crois bien, oui.
Donc voilà, donc effectivement, c'est des jeux qu'on peut trouver en France. Alors, l'auteur... Je vais aller chercher un peu sa ludographie parce que son nom me disait rien. Bah, elle est pas anecdotique sa ludographie, hein, il y a quand même une trentaine de jeux dedans, enfin, en tout cas en termes de quantité. Moi je ne connaissais guère que Robotori, qui était un jeu qui est passé par Japan Brand. Alors c'était, je sais plus, en 2000, je sais pas, 2005 par là, qui a été édité ensuite chez Asmodee dans les mêmes eaux, ça doit être un ou deux ans après sûrement.
C'est petite boîte carton là, c'est ça,
ouais,
avec
des
petits robots à déplacer.
Oui,
ouais. C'est rangé dans les tiroirs celui-là.
Ah ouais. Mais je crois que c'est un jeu qui a pas très bien marché en France hein, parce qu'il a dû il devait être soldé pas mal un peu partout. Ça devait être assez abstrait. Hein. Je me rappelle pas y avoir joué. Et c'est aussi l'auteur de Traders of Osaka. Mm. Encore une fois, parmi les jeux que je connais.
Hein, ouais, que je connais aussi.
Je connais que de nom aussi pour le coup.
Ah moi j'ai joué. Pareil, c'est un jeu qui a été bradé récemment dans les déstockages que fait Asmodee en ce moment, parce qu'ils vident pas mal leur stock. Et donc j'en ai récupéré un, j'ai fait une partie. C'est un jeu de transactions de cartes. Faut récupérer des cartes, les vendre. Quand on vend des cartes, ça fait avancer des bateaux. Et c'est quand le bateau arrive au bout de la route, tous les joueurs qui ont des cartes de la couleur du bateau qui est arrivé peuvent les vendre, etc. Il faut faire le plus d'argent possible. Ouais. C'est sympa, mais enfin. Ça se laisse jouer, mais c'est pas exceptionnel.
Ouais. C'était édité par Philosophia en français.
Ouais, tout à fait.
Voilà, donc a priori pas des jeux qui ont vraiment un grand rapport avec celui dont je vais vous parler ce soir. Donc Crime Hotel, puisque c'est le sujet de la chronique du jour. Alors le principe du jeu, hein, un meurtrier s'est caché dans une chambre d'hôtel et on vous envoie le dénicher. Donc en gros, on va jouer le rôle d'enquêteur ou de détective. Dans le jeu, en fait, chaque chambre d'hôtel est matérialisée par une carte. Donc, il y en a 27, très exactement. Il y a 27 chambres qui sont réparties en 3 étages. Donc, de la chambre 11 à 19, puis 21 à 29, puis 31 à 39. Et donc, il va falloir, en fait, au début, on va écarter une de ces chambres pour, ce sera la chambre dans laquelle se trouve le meurtrier. Il va falloir donc deviner. Et pour parvenir à trouver la chambre dans laquelle donc s'est reclus le meurtrier, chaque enquêteur va avoir des cartes en main. On va distribuer les cartes, 6 cartes à chaque joueur. Et donc c'est autant d'indices hein, dans lesquels forcément le meurtrier ne se trouve pas. Mmh. Et sur la base de ça, on va jouer des plis et tenter de deviner où se cache le meurtrier, donc quelle est la carte qui a été écartée au début de la partie. Donc les joueurs, en jouant leurs cartes, ils vont distiller des indices. Ouais. Forcément, les cartes qui ont été jouées, c'est des endroits où ne se trouve pas le meurtrier.
Où le meurtrier n'est pas.
Voilà. Et ensuite, on va pouvoir soit faire des déductions dans l'hôtel. Donc ça se passe dans une première zone de jeu qui est matérialisée par l'hôtel en lui-même. Là, on va ensuite poser les cartes représentant les chambres qui ont été jouées. Soit on va pouvoir activer des effets dans une deuxième zone de jeu qui est en fait matérialisée par le poste de police.
D'accord.
Et on va jouer comme ça 3 enquêtes pour une partie complète.
Très bien. On gagne des points à la fin de chaque enquête, c'est ça ?
Voilà, exactement. Alors, pour être un peu plus précis, du coup, en fait, le jeu, c'est un jeu de déduction, à la base, hein, qui est... Enfin, je pense que du coup, vous l'aurez compris, puisqu'il faut trouver le meurtrier. Et en fait, c'est basé sur 2 mécaniques. Et c'est là que ça devient un petit peu bizarre. C'est basé sur une première mécanique de pli et une deuxième mécanique qui est une mécanique de pose d'ouvrier.
D'accord.
Voilà, on aura déjà pu le comprendre un petit peu dans la première explication. Donc à chaque tour de jeu, en fait, on va jouer une carte. Il y a un premier joueur qui va lancer une couleur, en gros. Les couleurs, en fait, c'est les dizaines. Hein. Donc c'est premier étage, d'accord, deuxième étage. Étages, ouais. Voilà, c'est ça. Donc il va lancer une couleur et les autres doivent suivre à la couleur.
D'accord. Comme un jeu de pluie.
Exactement. C'est exactement ça. Et une fois qu'on a résolu, enfin une fois que tout le monde a joué sa carte, on résout le pli. Et en fait, on va classer par valeur la plus forte, enfin de la valeur la plus forte à la valeur la plus faible des cartes. Et on va se placer sur une grille au bas de du commissariat. Le joueur qui a joué la carte la plus forte met premier, et celui qui a joué la moins forte met quatrième.
D'accord. Ça donne un ordre de tour quelque part.
C'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Ensuite, on va jouer effectivement dans cet ordre-là. Mais on va réaliser des choses différentes en fonction de son placement. Le premier joueur, en fait, est le quatrième joueur. Alors, je donne des exemples pour quatre joueurs. Je reviendrai après pourquoi je parle de la configuration en quatre. Je rappelle que c'est pour trois ou quatre joueurs. Donc, le premier joueur et le quatrième joueur vont devoir se placer dans l'hôtel. Donc, en fait, on a des petits meeples, tout simplement. Hein. On en a cinq. Et on va placer son meeple soit sur une ligne, je vais parler simplement, c'est un tableau en gros, soit tu le places sur une ligne, soit tu le places sur une colonne, soit tu le places dans une case, qui est donc une chambre. Et en fonction de ça, à la fin de la partie, si tu as trouvé la bonne ligne, tu vas marquer 2 points, si tu as trouvé la bonne colonne, tu vas marquer 5 points, si tu trouves la bonne chambre, tu marques 10 points. Donc ce placement-là, déjà, c'est une première pose d'ouvrier, en fait, finalement. Parce que tu te places, et si tu es placé à un endroit, les autres joueurs ne pourront pas s'y placer.
D'accord, c'est limité, donc plus tôt tu as la bonne déduction, plus tu feras de points. Quoi.
C'est ça, plus tu feras
de
points.
Enfin, moins les autres pourront faire les points
c'est plutôt ça.
De la colonne, de la ligne.
Exactement. Et le deuxième joueur et le troisième joueur, eux, ils vont se placer dans le commissariat. Et là, en fait, tu vas jouer des effets. Soit tu vas bénéficier d'un effet ou d'une capacité, soit tu vas pouvoir marquer des points directement pour la fin de la partie. Voilà, là aussi, en fait, en gros, on est sur de la pose d'ouvrier et un emplacement qui est pris ne peut plus être pris par un autre joueur.
Tous les emplacements sont limités.
Exactement. Voilà. C'est assez bizarre quand on te l'explique, hein, parce que c'est vrai que tu te dis, ok, jeu de déduction, il y a du pli, il y a
de la pose d'ouvrier.
Ouais, il y a la pose d'ouvrier. D'ailleurs, quand tu joues au départ, tu sens pas forcément que c'est du pli, puis en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que bah, finalement, ça revient à ça, quoi.
C'est important de positionner, ouais.
Alors, je vais venir un peu après sur le feeling, tout ça du jeu, pour tenter de vous raccrocher un peu à d'autres choses, hein. Comme on le disait en intro, sur les commentaires, on essaie toujours de faire des petits comparatifs. C'est un jeu de déduction, donc on pourrait tenter de le rapprocher du Cluedo, hein, le grand ancêtre des jeux de déduction de ce type. Finalement, c'est pas très proche du Cluedo. Y a un feeling très différent parce que, alors oui, il y a une carte qui est cachée au début, hein. Dans le Cluedo, il y en a trois, parce que c'est
Lieu, l'arme et la personne.
C'est ça, voilà. Là, il y en a qu'un, mais en plus, il y a beaucoup moins d'échanges, en fait, d'informations dans Crime Hotel. Les échanges d'informations, c'est vraiment la pose de carte que tu fais. Donc là, c'est tout le monde, du coup, est au courant que bah, t'as posé la carte numéro 12. Bah, tout le monde sait que
pas dans
le
numéro 12, ouais.
C'est pas la chambre 12. Et au niveau du commissariat, tu as des actions qui permettent de faire des échanges de cartes et de voir des cartes chez d'autres joueurs. Mais c'est quand même très limité. C'est en gros, il y a un joueur qui va pouvoir faire un échange de deux cartes, un autre qui va pouvoir faire, voir deux cartes chez les autres, et ensuite, ça passe tout de suite à une carte. Globalement, dans une partie, tu t'échanges très peu d'informations comme ça. Alors que le Cluedo, c'est vraiment basé là-dessus. C'est vraiment basé sur les échanges d'infos entre les joueurs.
Puis là, si je comprends bien, à la fin du jeu, tout le monde sait où... Enfin, si tu joues toutes tes cartes, à la fin, tu sais où il est.
Alors en fait, tu as six cartes, tu veux en jouer cinq.
Ah, t'en joues que cinq. Donc chacun en garde une. Donc,
jusqu'à la fin, il se peut que tu saches pas. Mais plus t'avances, c'est peut-être probabilité. Et souvent, sur le dernier tour, tu peux deviner. Enfin, il y a des joueurs à la table, en tout cas, qui savent forcément en fonction de ce qui s'est passé. Et s'ils ont un peu de mémoire aussi, il faut avoir un petit peu de mémoire. Ou alors, il faut noter, faut autoriser de noter les échanges de cartes et les cartes que tu as vues. Parce que, comme je disais, il y en a très peu. Il n'y a pas de bloc-notes, justement, comme dans le Cluedo, où il faut que tu prennes beaucoup de notes, où c'est très, très dans la logique, finalement. Il a ça, donc c'est pas ça. Il a demandé tel truc, donc logiquement c'est pas ça. C'est très basé sur la logique, le Cluedo, alors que là on n'est pas du tout là-dedans. J'en reviendrai aussi. Donc on pourrait autoriser quand même de prendre des notes, même s'il n'y a pas de matériel pour le faire. Typiquement, j'ai fait une partie dimanche. On a autorisé, il y avait une personne qui avait un peu de mal avec, oh, il faut le retienne, machin. Tu dis, il y a que deux cartes. Mais, bah, et d'ailleurs, elle a noté les deux cartes, et à un moment, je sais pas ce qu'elle a foutu, elle a effacé son truc, et du coup, enfin, tu sais, c'était sur son téléphone, quoi. Je sais pas, elle a perdu sa page, je sais pas quoi, et du coup, bah, elle savait plus. Ah, bref.
Quand tu proposes anecdote. Que sur tes notes.
Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dit, bah, tu vois, il vaudrait mieux tenter de les retenir. Donc voilà, pour le Cluedo, alors oui, des petits liens forcément, parce que c'est le même principe de jeu général, mais au final, ça n'a pas grand-chose à voir. J'ai pensé à Sherlock 13, parce que c'est aussi un autre style, tu vois, de jeu de déduction, où là, c'est vraiment très mécanique sur les échanges et très minimaliste.
Ouais.
Là, on a une notion... En fait, on en avait parlé dans le débrief d'Essen de Crime Hotel. Et à un moment, j'ai ma langue à fourcher, j'ai dit, ah, c'est minimaliste, mais c'était pas minimaliste, c'est très, en fait, contraint, c'est très contenu, en fait, comme jeu.
C'est épuré.
C'est pas épuré non plus, tu vois. C'est justement parce que minimaliste, il a cette notion un peu d'épure. C'est pas épuré, mais c'est très contenu. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais, alors que Sherlock 13, oui, c'est très minimaliste, au final, toi, c'est réduit à quelques aspects, et puis en deux, trois questions, toi, la partie, elle est bouclée en 5-10 minutes, et en quelques questions, t'as trouvé le, je sais plus, oui, c'est ça, c'est aussi une carte qui est écartée, non?
Ouais, tout à fait, t'as une carte écartée, t'as 13 cartes, t'as une qui est écartée, les 12 autres, tu les répartis entre les joueurs. Et sur les cartes, il y a des symboles, en fait, qui permettent d'éliminer, quand tu trouves tous les symboles, enfin, quand tu trouves un certain nombre de symboles, ça te permet d'éliminer des personnages. Et il faut retrouver celui qui a été écarté, en posant des questions aux autres joueurs.
Donc du coup, tu vois, on est à un niveau quand même au-dessus de Sherlock 13, et le feeling aussi est très différent. Au final, les jeux dont je rapprocherais peut-être le plus Crime Hotel, ce serait peut-être le Bridge. Auquel, enfin, j'ai jamais joué, mais en fait, mon beau-père joue en compétition et tout, donc du coup, je comprends des notions, même si j'ai jamais joué. Mais il y a cet aspect, en fait, où faut deviner les cartes des autres.
Ouais.
Tu vois, et au bridge, en fait, c'est ça la première partie du jeu, c'est de tenter de savoir combien de plis ton équipe va pouvoir faire. Donc, du coup, savoir quelles sont les cartes qu'a ton partenaire et les cartes qu'ont les deux autres joueurs à la table. C'est vraiment vraiment tenter de déduire en fonction des annonces qui sont faites les cartes que les gens ont.
D'accord.
On est vraiment dans cet aspect-là, en fait. Il y a plus tu vas avancer dans la partie, plus il faut que tu arrives à deviner vraiment ce que les gens ils ont dans leurs mains. Enfin, dès le début, en fait, hein, faut que tu y arrives, mais tu y arrives plus vers la fin, forcément. Et le deuxième jeu dont je rapprocherai assez Crime Hotel, c'est Alchemist, qui lui a un gros jeu de, j'allais dire, de gestion. Justement, c'est pas un jeu de gestion, parce que c'est il y a de la déduction aussi dans Alchemist. Je sais pas si tu as déjà joué, toi.
Non, pas du tout.
Moi, j'ai fait qu'une partie. Alors, du coup, je dis ça un peu sur mes souvenirs. Mais une des caractéristiques de Crime Hotel, comme je disais pour le Cluedo, qui est très logique, Crime Hotel, c'est beaucoup plus dans le feeling. C'est beaucoup plus dans l'estimation, dans la gestion des probabilités et sur du guessing par rapport à ce que les gens font. Tu vas tenter de deviner ce qu'ils peuvent avoir dans la main ou pas. Et dans Alchimiste, c'est un peu pareil. Mais dans Alchimiste, t'as même du bluff. Là, t'as pas trop dans Crime Hotel. Dans Alchimiste, en fait, tu vas tenter de dire, je sais plus, c'est y a telle potion. Enfin, je sais plus le terme qui est dans le jeu, quoi. Mais je sais qu'il y a cette notion là, quoi. Donc voilà un peu pour les parents de Crime Hotel. Pour rentrer un peu plus dans le vif de la critique et du décortiquage du jeu, ce qui est assez amusant, en fait, dans Crime Hotel, tu démarres les premiers tours. Enfin, je me rappelle qu'en tout cas, à Essen, on avait démarré les premiers tours, on était assez sceptiques.
Ouais.
Puis en fait, très vite dans la partie, tu te rends compte qu'en fait, que tout est indice. Tout est un indice. Tous les...
Tout ce que les gens font.
C'est ça. Parce que, bon, déjà, un truc con, mais si tu lances une couleur et que bah, la personne ne l'a pas, bon, déjà, t'élimines, tu sais déjà que cette personne-là, elle a pas ça.
Ouais.
Du coup, tu sens déjà des probas qui se mettent en place. Donc, elle a pas cette couleur-là, donc forcément, elle a plus des autres. Tu sais, selon ce que les autres vont jouer, s'ils jouent au-dessus de toi, en dessous de toi, au milieu, et selon ce qu'ils ont intérêt à faire, puisque je rappelle, tu sais, le placement dans le tour
de ta position dans le pli, ouais.
Voilà, du coup je me suis retrouvé par exemple à faire une partie où il y avait un joueur qui n'arrivait pas à se placer à l'hôtel Si tu te places pas à l'hôtel, tu peux pas marquer. Enfin, si tu peux marquer des points au commissariat de police. Mais du coup, c'est très restreint, quoi. En plus, si les autres viennent te les piquer, c'est mort, quoi.
Ouais, donc s'il le fait pas, c'est qu'il pouvait vraiment pas, et ça veut dire qu'il avait pas les cartes
pour. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Ça veut dire qu'il a pas les cartes pour. Et tu peux même te retrouver comme dans un jeu de pli. Alors là, je bascule plutôt côté pli, tu vois, et pas déduction. Tu te retrouves des fois à avoir des longes. Si t'as la main. Si t'es premier, en fait, tu reprends la main au tour d'après. D'accord. Je me suis retrouvé aussi à faire une partie comme ça où j'avais une longe et du coup je contraignais. C'était la même partie en fait. Un joueur qui pouvait pas jouer parce que j'avais une longe en fait et il pouvait rien faire quoi. Donc déjà t'élimines un joueur dans la partie. Tu vois. Ça c'est vraiment super intéressant quoi, dans le jeu. C'est tout est indice quoi. Tout ce qui est fait, le fait que quelqu'un vienne entre guillemets confirmer un choix. Par exemple, quelqu'un s'y met sur une chambre. L'autre vient se mettre dans la colonne. Tu fais, ah, il y a un truc. C'est-à-dire que lui, déjà, tu te mets dans une chambre, normalement, c'est que t'as pas la carte. Si l'autre, il se met dans la colonne, ça veut dire qu'il l'a sûrement pas non plus. Donc, tu vois, ça resserre un peu les taux.
Donc, si moi, je l'ai pas, c'est que...
Voilà. C'est que probablement, c'est la bonne, quoi. Ouais. Si quelqu'un vient se mettre dans le commissariat, t'as une capacité qui est de pouvoir te mettre en double, au même endroit que quelqu'un dans l'hôtel.
D'accord.
Là, c'est pareil. Si tu vois quelqu'un se mettre ici, tu dis qu'il y a peut-être déjà quelqu'un qui est placé, qui est pas mal placé, quoi, par rapport en tout cas à ce que la personne a dans son jeu.
Personne a dans la main.
Voilà. Tout est comme ça, quoi. Tu montes des déductions comme ça au fur et à mesure, toujours basées sur des probabilités, en fait, parce qu'il n'y a jamais de certitude avant la fin. T'as pas de mécanique logique qui vont faire que t'as une certitude. En revanche, t'as vraiment, des fois, tu sens des espèces de zones sur le plateau qui se dégagent, toi, au niveau de l'hôtel.
Bah, d'où le scoring sur les lignes et colonnes aussi, parce que.
Exactement. Donc moi j'ai vraiment bien accroché avec ça. L'aspect guessing aussi, je sais que j'aime beaucoup le guessing dans les jeux. Et là c'est typiquement ça quoi. C'est pourquoi le mec il vient mettre une petite carte alors qu'il aurait tout intérêt à jouer premier. Ce genre de choses.
Parce qu'il a rien d'autre. Ouais, donc,
voilà. Ou alors il joue mal, ça peut arriver aussi.
C'est vrai.
Et là ça te pompe ta partie. Mais entre des joueurs qui jouent bien, alors je sais pas si entre des joueurs qui jouent bien, à un moment tu peux vraiment tenter des bluffs, parce que t'as aussi une capacité qui permet de déplacer un bonhomme qui est dans l'hôtel. Donc moi je prends pas ça pour du bluff, moi je prends plutôt ça pour par exemple toi
genre tu te mets sur une carte que t'as dans la main pour brouiller les pistes.
Ouais, carrément ouais. Alors oui, ça tu pourrais le faire en disant plus tard je vais venir je vais me déplacer. Mais tu peux aussi le faire plutôt à l'alchimiste où là tu vas faire un pari, tu vas dire c'est ici. Je pense que c'est ici avec une carte quoi qui est pas chez toi. Enfin que t'as pas effectivement en disant voilà c'est probable et si tu vois les autres te suivre ça veut dire que ça confirme le truc ou alors ça va l'infirmer
quoi. Ouais voilà.
Mais et ça c'est typiquement ce qui se passe aussi dans Alchimiste, tu vois, si les gens ils viennent suivre derrière toi ou pas quoi. Sauf que je crois que dans Alchimiste t'as moins d'indices en fait, du coup ça je pense que ça marche mieux dans Crime Hotel. Encore une fois, j'ai fait qu'une partie d'alchimiste, donc je me rappelle.
Ouais, je connais pas, je peux pas.
Bon, il y a des gens qui viendront nous dire si.
Laissez un petit commentaire.
Si ça leur semble.
Laissez des commentaires.
Si ça leur semble, proche ou pas. Voilà. Après, quelques critiques quand même. Le fait de faire 3 enquêtes peut paraître redondant. Moi, ça m'a pas gêné parce que déjà, j'aime le jeu, donc j'apprécie vraiment. Et puis, ça permet de lisser parce qu'il y a quand même.
Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Si tu me dis que ça a toutes les caractéristiques d'un jeu de pli, je connais pas de jeu de pli où tu fais qu'une seule manche. Souvent, les jeux de pli, ça se joue sur plusieurs donnes.
Exactement. Voilà.
Donc ça.
C'est exact. C'est exactement ce que j'allais dire.
sur cet aspect-là, ça correspond bien. Du coup,
on pourrait même jouer en plus que 3 manches, en fait. Quoi.
Oui, tu pourrais définir un nombre de manches ou définir un cap de points ou ce genre
c'est
de choses.
C'est ça, exactement. Alors évidemment, c'est plus lent qu'un jeu de pli. Quoi. Quand tu joues une main...
Oui, forcément, ça prend un peu plus de temps.
Ouais, on va dire, toi, à 4, c'est un quart d'heure, on va dire. Ça peut,
la donne.
Ouais, la donne, ouais. Et tu peux te retrouver... Alors, parce qu'effectivement, tu peux... Enfin, moi, globalement, je m'en sors pas trop mal dans le jeu, mais toi, ça m'arrive de faire une manche à 0 ou une manche à 2 points, alors que tu peux faire des manches à 17, 18, quoi.
Ouais.
Donc, c'est sûr que, toi, la différence, elle est quand même importante.
Oui, si tu fais qu'une manche, ça peut être très punitif, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà. Du coup, ouais, ça permet vraiment de laisser 3, c'est pas mal. Hein. Franchement, j'ai le sentiment que 3, c'est effectivement un bon. Ils ont bien calibré, ça fait des parties 30, 45 minutes, ça, c'est bien. Et ça n'empêche pas de faire une manche comme ça, si on a envie, au moins pour découvrir le jeu.
Oui, pour essayer, ouais, tout à fait.
Exactement. Alors, au niveau critique, ouais, tu peux te retrouver à avoir des manches qui tombent à l'eau. Toi, des trucs qui ça marche pas, quoi. Tu sais pas trop pourquoi, mais ça m'est arrivé une ou deux fois, bah, de faire des manches où personne ne sait rien. Alors à la fin, si, il y a quelqu'un qui trouve quand même à la fin. Mmh. Mais toi, t'as pas ce petit plaisir d'avoir. Enfin, ça m'est arrivé de trouver à la deuxième carte jouée. Mmh. Attends, tu fais putain, c'est là. toujours sans certitude, mais tu vois, ouais. le feeling, ah, je sens que c'est là. Il y a une probabilité, il y a une zone, tu vois, il y a une probabilité importante à ce niveau-là. Je sens que c'est là. J'ai même au premier tour un coup, je fais putain, ça sent trop que c'est ici, quoi. Je m'étais mis sur la colonne, j'avais été raisonnable. Mais voilà, ouais, tu vois, t'as ces moments vraiment de super plaisir intense, de plaisir personnel, toi, d'avoir trouvé tôt, et puis t'as des manches où tu fais flop, quoi. Donc c'est vrai que ça fait retomber un peu le truc, mais encore une fois, comme il y a 3 manches normalement, bon ben ça.
Oui, puis ça doit dépendre de comment les personnes jouent. C'est ça qui.
Et après il y a aussi des gens un peu moins réceptifs, hein, mais globalement les gens à qui j'ai fait jouer ont plutôt apprécié, sauf justement mon beau-père a plutôt bien aimé, qui joue au bridge justement.
Qui joue au bridge, ouais.
Ouais, j'ai pas cherché à lui parler de ce parallèle parce que j'avais pas encore établi à ce moment-là. Ma belle-mère, elle, par exemple, elle a pas aimé, elle a pas, tu vois, elle a pas senti, elle a pas réussi à faire les déductions, tout ça. Après, tu sais, comme c'est une première partie comme ça, j'en dis pas trop aux gens, je laisse un peu découvrir le truc. Mmh. Donc du coup, toi, peut-être que comme je l'ai pas guidé aussi, elle a pas senti le truc, quoi. Si je l'avais aidé, ben peut-être que voilà. Et bref. Et autre reproche que je peux faire au jeu, c'est que à 3, c'est quand même vachement moins bien.
À 3, ça se passe comment, du coup? Tu donnes plus de cartes?
Alors, en fait, au départ, à 4.
Cartes visibles.
À 4, ouais, t'as 2 cartes visibles sur la table, d'accord, du coup. Mmh. Et là, du coup, t'en as 8. En fait, en gros, t'as le jeu d'un joueur,
joueur
qui est sur la table.
Qui a posé ses cartes.
Ouais.
T'as plus d'indices, du coup, à 3.
T'as plus d'indices, mais du coup, t'as qu'une place pour se placer au commissariat. En fait, le premier joueur et le dernier joueur vont jouer à l'hôtel et celui du milieu va se placer au commissariat. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plus dur d'aller au commissariat au final, parce que normalement, t'as une chance sur 2 globalement et là, tu l'as pas. Et ce qui fait que ça empêche l'air de rien des déductions, parce que t'as souvent un effet binaire en fait sur les parties à 4. Où les gens ils vont essayer à peu près de faire autant de l'un que de l'autre, et ben quand tu te retrouves à 3, t'y arrives pas. Et du coup, tu peux te retrouver vraiment coincé. Et je trouve que la déduction marche moins bien aussi. T'as moins ce côté à tenter de deviner le jeu de 3 joueurs. Là, t'en as déjà plus que 2. Il y en a un qui est déjà étalé, comme le mort au bridge. On pourrait revenir au parallèle. Ouais, je sais pas, effectivement. Alors, c'était Pion Fesseur qui m'avait dit, je pense que ça donne moins bien un 3. Il avait essayé, il m'a dit, c'est moins bien. Alors, du coup, j'ai fait l'effort d'essayer aussi. Je me suis arrangé pour qu'une personne ne joue pas, quand même, c'est moche. Et effectivement. Ouais. Bon, après, j'ai fait qu'une seule partie à 3. Mais elle m'a moins enchanté. Après, j'ai pas trouvé ça nul, hein. Mais,
ouais.
Comme, tu vois, comme les jeux de plis, en fait. Tu vois, la belote, le tarot, le tarot, on dit qu'il y a des gens qui vont dire c'est mieux à 4, d'autres c'est mieux à 5. Mais la belote, tu vois, typiquement, c'est à 4, quoi. Moi, j'ai énormément, pour avoir quand même pourtant énormément joué à 3 à la belote, parce qu'on jouait avec mon frère et mon grand-père. Mmh. On a joué énormément à 3, voilà, on prenait du plaisir, mais c'est pas pareil que de jouer à 4. Quoi. Voilà.
Donc, ouais, si ça, encore une fois, le parallèle avec le jeu de plis semble pertinent.
Ouais.
J'ai pas joué encore à Crime Hotel, hein. Il me fait pas mal de l'œil, mais j'ai pas eu l'occasion encore d'y jouer. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu me dis, ça me semble pas déconnant. Que ce
ouais,
soit...
c'est, en fait, ouais, c'est, quelque part, c'est logique au final, quoi. Ça confirme, ouais. Ça confirme sa parenté, quoi. Ouais. Voilà un peu pour les aspects, en tout cas, de gameplay. Sur le thème, voilà, quoi. Je veux dire, c'est un jeu de déduction, faut trouver où se planque le meurtrier. Bon, voilà, toi, c'est ça marche, quoi. Mais bon, c'est pas, ils sont pas allés chercher un truc non plus folichon, quoi. C'est pas. En plus, toi, thématiquement, tu fais. Alors, le mec, il est planqué dans l'hôtel. On va devoir faire des déductions pour savoir. Toi, chercher des indices pour savoir où il est, quoi. Bah, je sais pas. Moi, je fais l'hôtel. Je fais des chambres les unes après les autres. Et voilà, quoi. Bon, bref. Donc toi, ça colle, mais voilà. Tu te sens pas un enquêteur. Bon. Dans le jeu. Et, je pense que c'est comme Sherlock 13, tu vois, pour le coup, qui est lui hyper minimaliste. Là, on est sur un jeu qui est pas minimaliste, qui est contenu, comme je disais, parce que tu vois, en fait, c'est contenu parce que t'as qu'un truc à trouver. Toi, t'as qu'une chambre à trouver. Et puis, tu te places dans des colonnes, des lignes et point. Quand il n'y a pas des indices à gauche, à droite, il n'y a pas des indices sous forme de récit, de je sais pas quoi. Toi, c'est très direct, en fait. Donc bref, voilà, ça c'était pour le thème. Après, sur les aspects de réalisation, d'édition, alors la boîte déjà elle est vraiment superbe, c'est super joli, ouais. Je trouve, c'est noir et rouge, avec
un point d'interrogation, c'est ça, un gros point d'interrogation.
Ouais, il y a vraiment une recherche graphique que je trouve vraiment très chouette. Le contraste noir et rouge, tout de suite, Crime Hotel, toi tu pouvais pas choisir d'autres couleurs. T'as un petit vernis en relief dessus là qui fait son petit effet. C'est une boîte qui est en format un peu à la con en revanche. Hein, ça ressemble un peu à la boîte de Civ, un peu plus petit. Je crois que c'est un peu plus petit. Et d'ailleurs c'est le même type de, je sais pas comment dire, de boîtage. Je crois que ça s'appelle des boîtes gorge. C'est en fait
tu soulèves par le haut et t'as une petite encoche pour poser le couvercle. Enfin, un petit débord, quoi. C'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ce qui fait que le couvercle est aligné avec la partie du dessous.
Ouais.
Alors sauf que là en plus le couvercle se pose pas à fond. Il descend pas à fond, ce qui fait que ça te laisse un liseré.
Très hausse, ouais.
Ça te laisse un liseré rouge, du coup, au milieu. Donc, c'est ce qui rehausse le truc qui fait que c'est vraiment joli.
Ouais.
Ils ont même pensé, tu vois, à l'intérieur, donc t'as un petit plateau pour le. Qui est un plateau en carton normal, hein, pour le commissariat. Ils ont mis une petite encoche dedans pour que tu puisses l'attraper correctement dans la boîte, parce qu'il est vraiment enfoncé dans la boîte. Et le plateau, lui, en revanche, enfin, le plateau de l'hôtel, lui, c'est du tissu.
D'accord.
Donc, du coup, bon, c'est plus léger, quoi. Mais bon, ça marche bien. Hein. D'ailleurs, c'est possible que ce soit des trucs qu'on voit de plus en plus, parce qu'à mon avis, ça doit revenir moins cher
qu'un plateau
de faire
carton,
ça. Hein. Ouais. Et puis, au final,
c'est agréable, ouais.
Ouais, ça fait son effet et ça marche bien. Surtout, justement, en plus, pour mettre des cartes dessus. Parce qu'en fait, les cartes, du coup, donc le plateau représente l'hôtel. Mmh. Et les cartes, en fait, sont.
C'est les fenêtres.
Exactement, c'est la représentation de la fenêtre de la chambre. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, quand tu les poses, en fait, ça refait le paysage, quoi.
D'accord, ouais.
En fait, t'as pas de bord sur les cartes, elles sont. Ça refait le dessin. Donc, ça casse pas ton dessin que tu poses la carte ou que tu l'aies pas. C'est pas mal aussi, c'est vraiment bien. Toi, c'est des petites astuces toutes bêtes.
Il y a des petites choses en plus sur les cartes posées, genre tu vois la lumière qui s'allume ou le.
Fait gaffe. Attends, je vais vérifier du coup deux secondes.
Parce que tu vois, tu pourrais avoir les fenêtres éteintes et à chaque fois que tu poses une carte, c'est la lumière allumée. Ou... Je l'ai vu, mais je me souviens plus de ça.
Et bah ouais, t'as raison, c'est ça, ouais, effectivement. Ah ouais, c'est ça. Ouais, t'as la lumière allumée.
J'avais ça en tête parce que j'ai vu le jeu, mais effectivement, j'ai pas encore joué, mais il me semblait qu'il y avait une différence en fait entre les cartes et le plateau, qui mettait un peu en avant les cartes posées, quoi.
Effectivement, tu me le disais, ça me disait vaguement quelque chose, mais je me disais, est-ce que c'est juste qu'il y a des fenêtres allumées et d'autres pas? Mais non, ouais, c'est ça, c'est les cartes en fait, on sont des fenêtres allumées et pas sur le plateau. En revanche, le matériel, alors toi, le design, tout ça, c'est super joli. Vraiment, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai fait le parallèle avec Civ, si je dis pas de bêtises, c'était déjà Yann Parovel.
C'était Christopher Matt.
Donc c'était déjà Yann Parovel à la direction artistique, et Christopher Matt, donc aux illustrations. Ouais.
Tout à fait.
Et en revanche, le matériel, lui, je trouve un peu cheap, quoi. Autant la boîte, tu vois, elle est jolie, elle fait bien, mais après, les cartes, elles sont vraiment d'une qualité qui est pas terrible. Ce qui fait, en plus elles sont toutes petites, donc alors c'est plutôt mignon, mais du coup elles ont tendance à s'abîmer vite,
surtout si c'est un jeu de plis où tu mélanges et donnes souvent,
et tu peux pas les il y a sûrement des protège-cartes de la taille, tu vois, mais enfin faut les trouver, quoi.
Moi j'ai acheté une plastifieuse maintenant, c'est radical.
On m'a conseillé ça, donc je vais peut-être le faire.
Bon, j'ai testé sur quelques jeux genre Love Letter et tout, ça marche très bien, quoi. Tu plastifies, tu redécoupes et
Ouais. Et puis ben elles prennent un peu des coups, tu vois, genre ben si tu les poses, tu tapes avec l'ongle dessus, ben ça a tendance à marquer un peu, quoi.
Ouais.
Donc ça c'est un peu dommage. Bon, le plateau, je l'ai dit, donc en tissu, bon ben oui, pourquoi pas, franchement moi ça me gêne pas, même si effectivement on peut se dire que c'est sûrement pour des raisons de coût.
Ouais, mais moi je trouve que ça donne un petit cachet aussi, enfin c'est pas ouais, forcément ouais.
Non, franchement ça me gêne pas. Ouais. Après le reste du matériel ça va, hein. C'est tu vois, c'est des meeples normaux, il y a des petits jetons pour représenter, enfin, pour reprendre ta couleur, quoi.
C'est surtout les cartes, quoi, qui sont du coup un peu,
ouais, c'est ça. Puis il y a un bloc de score, mais ici, franchement tu regardes, tu fais mais c'est un bloc de, il y a, t'as l'impression qu'il y a 3 feuilles dedans, quoi. Alors bon, j'exagère, il y en a 10, mais il y a 10 feuilles, donc tu peux écrire 2 trucs par feuille, enfin tu peux faire 2 parties par feuille, du coup ça fait 20 parties. Alors dit comme ça, 20 parties, tu dis ça va, c'était pas mal. Mais
une partie, c'est 3 enquêtes, hein, donc ça fait, c'est ça.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ouais.
T'as un petit tableau en fait, hein, donc t'as 2 fois le tableau pour renseigner les trucs. Voilà. Enfin, disons que ça fait un petit peu mesquin, je trouve. Voilà. Ça fait peu un petit bloc-notes. Alors t'as un QR code, ils te disent tu peux aller télécharger le truc là.
Pour les imprimer, ouais. Voilà.
Et d'ailleurs, c'est pareil pour les règles en français, parce qu'elles sont pas dans la boîte. Dedans, il n'y a que les règles en coréen. Mmh. Et pareil, sur la règle, alors il faut quand même regarder la règle coréenne, du coup, tu vois, pour aller... Donc il faut quand même penser à la regarder sur la règle coréenne. Il y a un QR code qui te dit tu peux aller télécharger la règle en français. Alors que bon...
Mmh. Bon. Après, ça, généralement, enfin, je sais que sur Philibert, notamment, c'est écrit clairement que les règles... Mmh.
Ouais,
les règles VF sont à télécharger.
Oui, c'est écrit dans la description. Mais bon, effectivement, encore faut-il la lire. Et elles sont disponibles directement sur Philibert. Ils ont un petit onglet téléchargement. Et voilà.
Ouais. Bon, après, c'est moi, ça, enfin, le côté règles, ça me choque pas. C'est de l'import quand même. Hein. C'est une édition coréenne qui est importée en France. C'est pas comme si un éditeur français avait fait une version française.
Ben oui, non, parce que en fait, t'as vraiment toi au dos de la règle, c'est marqué la règle en français. Elle est sur le site, quoi. Donc c'est quand même prévu, c'est pas qu'une édition coréenne, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Si l'édition de base elle était coréenne, elle était prévue que pour la Corée, il y aurait jamais eu le petit truc derrière pour dire télécharge la règle en français.
Bah si, parce qu'ils savent peut-être que Happy Baobab sait que ces jeux maintenant sont plutôt bien distribués en France et que du coup ils prévoient la règle, ils font la traduction de la règle plutôt qu'il y ait des traductions tu vois, de fan-made qui traînent, quoi. Mmh. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc, moi ça me choque pas plus que ça. C'est vrai que si elle était traduite, la mettre en français. Après, c'est peut-être une question de coût, une question de place aussi. Je vois pas la.
Enfin, c'est pas une question de place, ça c'est sûr. De coût, oui. Non, mais c'est une question de coût. Enfin, je veux dire, c'est sûr. Enfin, voilà. Après, on peut se dire aussi, bah, étant donné que le jeu, il va pas être joué. Si le jeu est essentiellement distribué en Corée, on peut se dire, bah, c'est peut-être dommage d'aller mettre un livret de règles en allemand, un livret de règles en français, toi même écologiquement parlant, alors qu'on sait que les 3/4 vont être vendus en Corée. Bon. Mm. Voilà, bon, il peut y avoir des raisons, on n'empêche qu'aujourd'hui, on n'est pas encore habitué à ce genre de truc. Je le précise en tout cas. Bon, toujours dit, toi, globalement, quand même, ça donne quand même malheureusement l'impression que t'as un petit côté pègre, en fait, dans l'édition. Un petit côté pingre.
Ouais, parce que pègre,
c'est la marche. Je suis désolé. J'ai ma langue à fourcher. C'est la police, tout ça, ça m'a.
Attention, bref, il va t'arriver des malheurs. Parle pas trop de la pègre.
Il y a quelqu'un qui va venir chez moi dans ce coup. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème d'édition. Il y a
un problème avec la pègre, comment ça?
Voilà. C'est quand même globalement les seuls reproches que j'ai au jeu, hein. C'est sur les aspects éditoriaux. Bon, après, ça empêche absolument pas de jouer. Une fois qu'on a téléchargé la règle en français, il n'y a pas beaucoup de pages et tout, donc ça passe bien. Les joueurs à qui ça s'adresse, alors, il faut bien comprendre que c'est un jeu de déduction et c'est pas un jeu d'enquête. Ouais, faut juste bien le préciser, il y a pas de scénario dedans, tout ça, et pas, c'est pas, du coup c'est vraiment pas forcément pour le même genre de joueur, quoi. C'est plutôt pour les gens qui aiment effectivement des trucs du style Sherlock 13, les jeux que j'ai cités précédemment, quoi, avec un aspect moins logique. Il y a plus un aspect, encore une fois, guessing, déduction, proba, plus dans le feeling que vraiment dans la logique. Ce qui reprend aussi d'ailleurs potentiellement le parallèle, enfin la différence avec les jeux d'enquête, toi, qui sont aussi plus dans la logique. Et ils donnent 8 ans sur la boîte. J'avoue que moi je suis un petit peu sceptique sur 8 ans. Alors, j'ai pas d'enfant de 8 ans sous la main pour avoir pu essayer, mais voilà, pour moi, pour bien jouer au jeu, à mon avis, il faut peut-être un niveau au-dessus. Ou alors il faut avoir bien donné toutes les ficelles, un enfant qui a l'habitude. à 8 ans, oui, peut-être qu'un enfant qui a l'habitude des jeux de société, il va y arriver, quoi. Mais 8 ans, souvent, c'est quand même ce qui est donné pour un jeu familial, tu vois, genre Les Aventuriers du Rail, des choses comme ça, tu vois. Et là, bah oui, tu vas jouer, mais tu vas pas forcément bien jouer.
Comprendre toutes les subtilités, ouais.
Et si tu joues pas bien, ça va aussi gâcher la partie des autres. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que potentiellement, si tu joues mal, bah, les autres, leur déduction, elle va te fausser aussi. Donc, ça risque de... Voilà. À mon sens, il vaut mieux compter 10-12 ans pour... 10, ouais. Je conseillerais plutôt plus tard. voilà. Et pour conclure, alors je sais pas toi si tu veux ajouter des choses par rapport à ce que j'ai dit.
Non, bah comme j'y ai pas joué, j'ai pas grand chose à ajouter. Comme je te dis, ça m'a quand même pas mal titillé. J'aimerais bien y jouer parce que j'ai regardé la Trick Track TV, j'ai suivi un petit peu, hein, connaissant assez bien Yann et Christopher, j'ai pas mal regardé. Et ouais, ça m'attire plutôt sur ton explication a fini de me convaincre qu'il faut que je l'essaye rapidement.
Je pense effectivement que c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde, mais vraiment dans son genre, je le trouve vraiment, vraiment chouette. Moi, je suis pas très jeu de déduction, sincèrement, mais celui-là, encore une fois, pour son côté guessing, gestion des probas, tu vois, celui-là, il m'a vraiment titillé. Et au niveau interaction, tu vois, c'est pas vraiment t'as pas d'interaction directe, même quand tu te fais prendre une place, toi, tu sens pas forcément une interaction forte, mais l'interaction elle est plutôt un peu ce qu'on peut retrouver comme interaction dans Race for the Galaxy, qui est un de mes jeux favoris. Je vais chercher un parallèle très long là pour le coup, mais là aussi c'est du guessing, toi, qu'est-ce que l'autre il va faire au prochain tour, et du coup est-ce que j'ai besoin moi de faire cette action là si lui il l'a fait. En différent, mais c'est peut-être pour ça aussi du coup j'apprécie ce jeu là. Globalement, tu vois, c'est pas un jeu innovant, mais en revanche, c'est un bon mélange entre des trucs assez improbables. Au final, je vais te plier, pose d'ouvrier.
C'est un mélange assez original, effectivement.
Ouais. Moi, on me l'a présenté.
A priori, marche bien.
Bah ouais, c'est ça, ça marche. Ça... Étonnamment. Voilà. En tout cas, moi, la première fois, ça m'a surpris. Hein. Pionfesseur qui l'avait shortlisté à Essen, il m'a dit allez viens on va essayer, c'est un jeu de, tu vois, c'est un jeu de plis, un jeu de déduction à base de plis. Ouais. Et en fait ce qu'il disait c'est qu'en fait c'est, et il a raison Pionfesseur, en fait c'est que finalement un jeu de plis, en fait il y a de la déduction dedans, parce que justement dans les jeux de plis,
oui, tu
faut
dois anticiper ce qui reste aux autres,
c'est
ce qu'ils peuvent jouer, etc.
Ouais, exactement. Donc en fait c'est tout à fait pertinent finalement, mais même si à ma connaissance, on n'a encore jamais fait un jeu plus tourné vers la déduction que vers le pli, justement.
Ouais.
Voilà.
Très bien.
Pour mon avis. Bon, je refais la petite fiche analytique pour conclure.
Eh bien, oui.
Donc, c'est un jeu de Susumu Kawasaki, illustré par Christopher Matt, avec Yann Parovel à la direction artistique, édité par Happy Baobab, pour 3-4 joueurs. Moi, je vous conseille plutôt 4 joueurs. Des parties de 30 à 45 minutes, c'est plutôt respecté, et à partir de 8 ans, moi je conseillerais un peu plus tard. Et donc Crime Hotel, c'est disponible à 22,90€ chez Philibert.
Et c'est disponible ?
Oui, c'est disponible, monsieur.
Ah, très bien.
Ouais, j'ai été étonné d'ailleurs, je fais putain merde, ça se trouve je suis en train de chroniquer un jeu qui va pas être dispo du tout, nulle part en France, tu vois, et en fait aussi.
Si, si, ouais.
Voilà.
Très bien, ben merci Cyrus.
Allez, je te laisse passer à Solenia.
On va passer à Solenia. Alors Solenia, c'est un jeu de Sébastien Dujardin, hein, édité donc par Pearl Game, puisque c'est l'éditeur, la maison d'édition qu'a fondé Sébastien Dujardin. C'est distribué par Asmodée, puisque Pearl Game est désormais un studio d'Asmodée. C'est illustré par Vincent Dutré. C'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui varient, on va dire, autour de 45 minutes. Ça peut être jusqu'à 1 heure pour les parties les plus longues, et ça peut, pour des parties à 2, je pense, et des gens qui connaissent bien le jeu, ça peut descendre à 30 minutes. Mais en gros, c'est 15 minutes par joueur à peu près. C'est disponible chez Philibert à 31,90€, et la malédiction ayant encore frappé, il est pour l'instant en rupture de stock. Hein, on commence à avoir l'habitude. Ouais. Alors Solenia, c'est quoi ? C'est déjà une histoire qui est assez sympathique, je trouve. Donc le jeu prend place sur une planète qui a arrêté sa rotation, d'accord ? Donc il n'y a plus d'alternance jour-nuit. Donc il y a un côté de la planète qui est toujours orienté vers le soleil et donc toujours dans la journée, et un autre côté de la planète qui est toujours orienté dans la nuit. sur cette planète aussi, il y a très longtemps, il y avait des connaissances, il y avait un peuple qui savait voyager en dirigeable dans l'air, effectivement, pour faire des transactions, etc. Et là, bah, sur la planète, maintenant, il n'y a plus qu'un seul dirigeable qui existe et on ne sait plus en construire d'autres. Donc, bah, ce dirigeable, il va être amené à transiter des marchandises du côté jour vers le côté nuit. Parce que, bien entendu, côté jour, il y a du soleil, donc les plantes vont pousser, il va y avoir des arbres, il va y avoir du blé. Mais par contre, ça va être très sec, il ne va pas y avoir d'eau. A contrario, côté nuit, il n'y a pas grand-chose qui va pousser. Par contre, on va avoir de l'eau et de la pierre. Et du coup, ben, les habitants de la nuit, ils ont besoin de nourriture et de bois pour construire. Et les habitants du côté jour, ben, ils ont besoin d'eau pour faire pousser et de pierre pour construire aussi. Donc, il va y avoir cet échange de marchandises. Et donc, chaque joueur prend le rôle d'un marchand qui va devoir récupérer des marchandises, des ressources et les vendre. Sauf que l'originalité, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul dirigeable et que du coup, tous les joueurs vont se partager un même dirigeable. Donc, ils vont se déplacer en même temps sur cette espèce de planète. Et ils vont gérer chacun leur stock parce que le dirigeable est compartimenté, bien sûr. Et chaque marchand va pouvoir gérer un petit peu son stock comme il l'entend. Voilà pour l'histoire du jeu et le principe. Donc, ça va être un jeu de gestion de ressources et de livraison de ressources. Avec l'alternance jour-nuit là qui est bien représentée par un plateau plutôt ingénieux, un système, on y reviendra, mais qui est hérité d'un autre jeu, où en fait le plateau est modulable, c'est des petits tronçons de... Alors il y a des cases pour poser des cartes, il y a cinq tronçons, et c'est un peu en escalier, et en fait les parties s'emboîtent, et donc à chaque fois que le vaisseau, ou le dirigeable va avancer, on va prendre une partie du plateau derrière, on va la remettre devant, on va la retourner et la mettre devant. Et du coup, ça va nous faire, quand on avance avec le dirigeable, le plateau va avancer en même temps et ça va nous faire une alternance jour-nuit donc, qui est très très intéressante.
Ça, c'est la partie assez originale. Parce que sur les tuiles, en fait, tu as une phase jour et une phase nuit.
Tout à fait. Il y a une tuile qui est moitié-moitié, en fait, c'est la ligne de séparation. Mm-hmm. Et après, voilà, il y a une phase sur toutes les autres, il y a une phase jour et une phase nuit. Donc, quand on prend derrière et qu'on la retourne, si c'est du jour, ça devient de la nuit. Donc, on avance vers la nuit ou après, une fois qu'on a passé toute la nuit, on avance vers le jour et ainsi de suite. Et on va avancer comme ça sur la planète pour récupérer des ressources et en livrer. Donc, ça, c'est la partie plateau modulable. Donc, comment ça va se passer dans les explications? En gros, chaque joueur va avoir 16 cartes. Sur laquelle il va y avoir certaines actions, et ces cartes vont être posées, en fait, à chaque tour, chaque joueur va poser une carte sur le plateau. Donc ça se joue en 16 tours, ça c'est immuable, peu importe le nombre de joueurs, on va jouer 16 tours, chaque tour c'est une carte par joueur. Les joueurs ont aussi un petit plateau personnel sur lequel ils vont mettre leurs ressources, ça va être le stock de ressources, et aussi quand ils vont procéder à une livraison, ils vont mettre
la tuile du contrat, quoi.
Voilà, la tuile, la consigne de livraison. On va consigner ces livraisons sur le petit plateau. Donc, la petite tuile, on va la mettre aussi au-dessus ou en dessous de notre plateau personnel. Et donc, à chaque tour, un joueur va pouvoir jouer une carte sur des cases qui sont autour du dirigeable ou sous le dirigeable. Et en fait, la carte, c'est des cartes qui sont trouées. C'est assez marrant parce que donc sur les tuiles, sur le plateau, en fait, il va y avoir des cases avec des ressources. Donc, soit du blé, soit du bois, soit de la pierre, soit de l'eau. Donc il y a ces quatre types de ressources. Et les villes, donc, qui sont représentées par des étoiles, dans lesquelles on va pouvoir vendre ces ressources. Et donc quand on va poser une carte, la carte va être numérotée de 0 à 2. Et donc quand on pose une carte par exemple sur une case blé, si on a un 2, ça veut dire qu'on va récupérer 2 blés. Et donc la carte est trouée au milieu pour permettre de voir la ressource qui est en dessous. Comme la carte peut être posée sur n'importe quelle ressource potentiellement, ça va nous permettre de voir la ressource. Donc ça, c'est on pose une carte, on récupère les ressources correspondantes. Si on pose dans une ville, alors c'est des étoiles, donc ça veut dire que déjà si on pose une carte avec un 2 sur une ville, eh bien on va récupérer 2 étoiles. Ça, c'est des points de victoire, hein, les points de victoire sont représentés par des étoiles. Donc ça, c'est des étoiles bonus. Et si on se met dans une ville, on va être obligé d'honorer un contrat de livraison. Et donc pour ça, il y a 2 jeux de tuiles, des tuiles donc... foncé pour la partie nuit, des tuiles claires pour la partie jour. Donc si on se met dans une ville de la partie nuit de la planète, on va devoir honorer un contrat de la partie nuit. Et donc il y a 4 contrats.
Pardon. Et évidemment, il va falloir donner plutôt des ressources qui sont côté jour.
Tout à fait. C'est ça. C'est logique. Les habitants de la nuit cherchent plutôt de l'eau. Les habitants de la nuit cherchent plutôt du blé et du bois, et les habitants du jour plutôt de l'eau et de la pierre, mais il peut y avoir un mélange de ressources. Hein. Tu peux très bien avoir... C'est jamais une seule ressource. Donc les contrats comptent entre 2 et 5 ou 6 ressources, je crois. Et bien sûr, les points de victoire sont plus importants sur les contrats avec plus de ressources que sur les contrats à deux ressources. Les points de victoire vont de 2 à 9. Il y a 2, 4, 6, 9, je crois.
Oui, c'est ça.
En termes de points de victoire. Et donc, si on va dans une ville, on est obligé d'honorer un contrat. Donc, parmi les 4 disponibles à 4 joueurs, on est obligé de rendre des ressources pour prendre ce petit contrat. Sinon, on ne peut pas se placer dans une ville si on ne peut honorer aucun des contrats. Voilà, donc ça va se passer comme ça. On va jouer chaque fois une carte qui va nous faire une action. Donc, les cartes vont de 0 à 2, sachant que la carte 0 ne permet pas de récupérer de ressources. Si je mets un 0 sur une forêt, par exemple, je ne vais pas récupérer de bois. Par contre, la carte 0 va faire avancer le dirigeable, ce qui va faire que le dirigeable avance d'une case et que la dernière tuile, enfin la dernière tuile plateau derrière le dirigeable est basculée, retournée et mise devant. Et qu'il va y avoir un effet aussi, puisque toutes les cartes sont laissées sur le plateau, on ne les reprend pas. Hein.
Du coup, ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles deviennent alors? Du coup, si elles sont sur le plateau?
Voilà, donc les cartes vont reculer au fur et à mesure, puisque le dirigeable va avancer, forcément. Il y a pas mal de cartes zéro, hein, donc tous les joueurs, à chaque fois qu'ils vont jouer une carte zéro, qui sont plutôt utilisés pour les livraisons, du coup, parce qu'on a plutôt intérêt à l'utiliser pour des livraisons, puisque ça ne permet pas de récupérer de ressources. Par contre, ça nous permet de faire une livraison. Ces cartes vont se retrouver à la fin du plateau, et à un moment, vont quitter le plateau. Et quand elles quittent le plateau, en fait, enfin, quand le plateau va se détacher pour repasser devant, les cartes sont enlevées, et là, elles permettent d'obtenir un bonus. Donc, soit de récupérer des ressources, soit de récupérer des points de victoire. Globalement, c'est ça. Et donc, le placement de ces cartes, plus on le place en fait vers l'arrière par rapport au dirigeable, plus ces cartes vont nous générer du bonus rapidement.
Ouais, c'est
ce
ça,
qui permet en fait de récupérer plus de ressources et de pouvoir refaire une vente rapidement derrière, etc. Donc c'est vraiment de la gestion et de l'optimisation.
C'est vraiment toute une gestion de tempo en fait dans le jeu.
C'est ça. C'est vraiment, il y a vraiment un tempo, le pose de cartes, etc. Pareil, les cartes peuvent être, enfin un endroit peut être occupé que par une personne. Donc si une personne est là, tu peux pas mettre ta carte. Donc, si tu avais prévu de prendre du bois et que la seule case bois qui est disponible autour du dirigeable est prise par quelqu'un, tu pourras pas te mettre dessus.
Ou alors il faut que t'ailles plus loin. Dans ce cas, ça te coûte.
Donc toutes les cases autour du dirigeable et en dessous du dirigeable sont gratuites. Tu peux aussi te placer à côté d'une de tes cartes que tu as déjà placée. Donc là, par exemple, si le dirigeable il avance, tu as une carte qui est restée derrière ou que tu as placée déjà devant, tu pourras te mettre à côté d'une de tes cartes gratuitement, même si le dirigeable a déjà avancé. Tu gardes un point d'attache quelque part. Ou alors, si tu n'as vraiment pas le choix, tu peux aussi aller plus loin. Donc ni attaché au dirigeable, ni à une de tes cartes, mais dans ce cas, par case qui sépare les cases gratuites, tu payeras une ressource. C'est-à-dire que si tu veux aller à deux cases du dirigeable, tu payeras une ressource parce que tu as une case d'une case gratuite. Quoi. Donc voilà, ces placements sont importants parce que c'est vraiment la mécanique du jeu qui va permettre de récupérer les ressources, d'avoir les bonus de récupération de ressources et de revendre. C'est vraiment un jeu de c'est presque un pick-up and delivery. Hein.
Ouais, c'est presque en fait, parce que effectivement, ça l'est pas tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est,
ouais.
Je m'étais dit aussi, sachant que tu allais parler de soulignage, je me dis tiens, hein, ça ressemble à du pick-up and delivery, mais effectivement, ça en est pas vraiment.
Ouais,
quoi.
C'est un mélange de pick-up and delivery et de gestion, de gestion de ressources en fait, de gestion de stock, etc.
Ouais, de collection set ou de réalisation de contrats en tout cas. Ouais.
Alors, dernière chose sur les règles, le petit plateau personnel qu'on a devant nous, déjà les slots pour mettre des ressources sont limités à 8, donc on ne peut pas avoir plus de 8 ressources, donc on ne peut pas farmer comme un porc et après faire que des livraisons. Il faut vraiment, gérer ces récoltes et livraisons un peu en flux tendu, on va dire.
C'est super important d'ailleurs en fait comme aspect, parce que je pense que le jeu était complètement briqué s'il n'y avait pas ça, parce qu'effectivement... Tout l'intérêt, en fait, c'est de réussir à jongler entre le jour et la nuit. Et comme tu récupères des ressources de jour, on va dire en gros dans le jour, tu récupères du blé et du bois, mais que ça, tu vas t'en servir que dans la nuit. En fait, il y a un nombre de cases. Déjà, pour collecter ça, il faut un certain temps. Le dirigeable, il avance pendant ce temps-là, mais il avance pas assez pour que tu sortes tout de suite du jour, pour que tu aies déjà les ressources et que tu puisses les utiliser dans la nuit. Donc... Et à un moment, effectivement, tu stockes des trucs et puis tu te retrouves, effectivement, à un moment, si tu essaies de trop garder, tu te retrouves à devoir jeter des choses ou alors, finalement, on va devoir faire un contrat dans le jour. Sauf que, ce que tu n'as pas encore expliqué, mais je pense que tu vas y venir, il y a quand même un intérêt tactique à aller soit dans le jour, soit la nuit, enfin, selon la tactique qu'on veut prendre, mais en gros, il faut essayer de faire que de la nuit ou que du jour, ou alors vraiment une alternance des deux.
C'est ça. En fait, à chaque fois qu'on va récupérer un contrat de livraison, il y a des petites encoches sur notre plateau personnel et on va placer tous les contrats jour en haut de notre plateau et tous les contrats nuit en bas de notre plateau. Et dans chaque petite encoche, ça, en fait, chaque petite encoche va déjà délivrer un bonus. Mmh. Donc forcément, les bonus de jour vont vous donner des ressources
de jour,
et les bonus de nuit des ressources de nuit. Donc ça permet, quand tu fais en fait une livraison de nuit, tu vas récupérer des ressources qui sont plutôt des ressources de nuit. Donc bon, si tu as fait une livraison de nuit, c'est que tu es vraiment dans la nuit. Ou alors, il faut t'arranger pour la faire vraiment à la limite avant que tu rebascules dans le jour, etc. Enfin, tu peux vraiment jouer là-dessus pour récupérer des ressources. Et effectivement, les encoches, t'en as six de chaque côté. Et donc, tu peux jouer de deux manières différentes. Soit tu fais vraiment la course à que des livraisons de jour. Et en fait, les deux dernières encoches dans chacune des parties jour et nuit vont valoir des points de victoire supplémentaires. Donc, les deux dernières encoches valent 5 points de victoire supplémentaires chacune. Mmh. Donc, les bonus, au lieu d'avoir des ressources, bah, tu as des points de victoire directement. Et pareil du côté nuit. Mais en moyenne, on fait entre 8-9 maximum livraisons dans une partie. C'est dur d'en faire plus que 8 généralement. Ça se joue vraiment entre 5 et 8 en fonction des ressources qu'on vise aussi. Parce que si on fait que des 2, effectivement, on pourra en faire plus que si on prend des. Où il faut que 2 ressources. Que des livraisons où il en faut 5 ou 6. 5, je crois, c'est le maximum.
C'est 5, ouais.
Mais il y a une autre stratégie aussi, c'est d'équilibrer justement le côté jour et côté nuit, parce que là, on va avoir un moteur qui fait que si j'ai une paire de jour-nuit, je vais faire un point, 2 paires 3, 3 paires 5 et 4 paires 8. Après, au-delà de 4 paires,
c'est
6
et 10. Mais bon,
c'est 6 et 10 ? Ah oui, 6 et 10, pardon. Ouais. Tout à fait. Donc, on peut aussi se dire, bah, je vais en faire que 4 de chaque. Donc, je vais avoir les bonus en ressources des deux côtés. Je ne vais pas avoir de bonus de points de victoire. Mais par contre, je vais avoir des bonus de points de victoire à la fin. Je vais avoir 10 de bonus pour avoir bien équilibré mon plateau.
Et tu retrouves en fait les 10 de bonus de si tout tu fais 6.
Si tu fais que... Ouais. Après, tu peux alterner les deux. Hein, si tu arrives à faire... si tu arrives à faire, par exemple, les 6 d'un type et 2 de l'autre type... Tu arrives à en livrer 8, ce qui est possible, hein, c'est faisable si tu fais des petites livraisons. Ouais. Tu peux avoir les 10 du côté jour, par exemple, et les 3 tes 2 paires. Enfin, voilà, après, ça, il y a plusieurs stratégies là-dessus. Donc, déjà, ça, il faut savoir que c'est le mode, on va dire, classique, le principe du jeu de base. J'y reviendrai après, mais il y a des petites variantes, en tout cas des petits modes de jeu en plus. Et j'y reviendrai après.
Okay.
Comme on le disait, c'est un jeu de gestion, c'est quasi un pick and delivery. C'est pas, voilà, on va récupérer des ressources et les livrer. C'est vraiment en flux tendu par rapport à l'espace de stockage. Et on a une mécanique très innovante de ce plateau mouvant. Hein. C'est vraiment une mécanique qui fait tout le sel du jeu. Et ça, en fait, elle est héritée dans Solenia d'un autre jeu qui a été développé avant Solenia, mais qui n'est pas encore sorti. Qui est aussi chez Pearl Game, il s'appelle Black Angel. Donc, qui est un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban. Et qui est à venir chez Pearl Game, que j'ai pu tester à Cannes. Bah, j'ai pu faire un début de partie à Cannes l'année dernière.
On l'avait fait ensemble ou pas ? Je sais plus.
C'est possible. Mais en tout cas, Black Angel, c'est un jeu beaucoup plus lourd.
Ah oui,
c'est vraiment un gros jeu qui mêle beaucoup, beaucoup de mécaniques.
Ouais, ça c'est vraiment c'est une patte du millefeuille là le truc avec l'univers qui déroule là.
Ce que ça reprend en gros de Black Angel, c'est ce plateau qui avance en même temps que le vaisseau et le vaisseau commun en fait où tout le monde est au même endroit au même moment
et les cartes qui s'évacuent aussi.
Et les cartes qui composent et qui s'évacuent et qui donnent des bonus, exactement. Sauf que là, le bonus est immédiat. Dans Solenia, dans Black Angel, on le place sur un plateau personnel avec une espèce de grille où il faut remplir des lignes, des colonnes pour activer des effets. Enfin, Black Angel est beaucoup, beaucoup plus complexe. Pareil, il y a la partie vaisseau commun dans Solenia et en fait juste là sur le déplacement du plateau. Dans Black Angel, il y a tout un vaisseau commun avec un semi-coopératif puisqu'il faut défendre le vaisseau contre des extraterrestres, etc. Enfin, c'est vraiment... 4-5 crans au-dessus. Hein.
Ouais, largement.
C'est vraiment du gros jeu, des parties de 2h, 3h, je pense. Enfin, un jeu très intéressant, mais avec une complexité bien, bien supérieure. Là, ils ont repris, en tout cas, Sébastien Dujardin a repris une des mécaniques de ce jeu-là pour en faire un jeu plutôt accessible, plutôt familial. Les règles s'expliquent très très rapidement. Hein. Il y a, comme on l'a vu, il y a pas tant de règles que ça. Par contre, après, il y a une belle profondeur de jeu. Il faut vraiment bien gérer, bien optimiser. Il y a pas mal d'opportunisme aussi. Hein.
Ouais, pour moi, c'est surtout, ouais, c'est vraiment un jeu d'opportunisme pour moi. Il y a, enfin, tu peux programmer des choses.
Ouais, il y a quand même la gestion d'optimisation. Il y a quand même de l'anticipation à avoir.
Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est optimisation, opportunisme quand même. Parce que tu as aussi que trois cartes en main. Donc, tu dois jouer quand même avec ces trois cartes-là. Il y a
oui,
des moments où tu voudrais, par exemple, pouvoir faire avancer. Tu peux pas...
Ouais, c'est vrai que je n'ai pas précisé. On a 16 cartes, mais on a à chaque tour, on a le choix d'une carte parmi trois.
Et je reviens quand même juste au niveau des parentés. Donc, effectivement, la parenté évidente, c'est Black Angel, mais qui, du coup, n'est pas encore sorti.
Oui,
il y a quand même un jeu dont je me rappelle qui utilisait un mécanisme de déroulement comme ça. C'était Campbell Cascade, qui n'a pas trop marché, hein, qui était un jeu chez Philosophia. Mais là, ce qui est intéressant aussi dans là où, enfin, en tout cas, le concept est poussé plus loin dans Solenia, c'est le fait que la tuile de l'arrière repasse devant et qu'en plus il y a une logique, c'est-à-dire
il y a un cycle jour-nuit de la planète.
Et en fait, tu peux anticiper, savoir ce qu'il va y avoir devant en fait en fonction de ce qu'il y avait derrière, parce que sous le bois, je crois, je veux dire n'importe quoi, mais sous le bois, tu dois avoir la pierre et sous le blé, tu dois avoir l'eau. Enfin, il y a une logique en tout cas.
Ah, ça, j'ai pas fait gaffe s'il y avait vraiment une.
Tu n'as pas encore assez creusé le jeu, jeune petit.
Non, mais c'est pas un truc sur lequel
potentiellement,
qui me semblait important. Mais effectivement, ça peut.
Ouais, ça peut. Bon, après, franchement, moi, je l'ai pas exploité, mais voilà.
Il y a Niagara qui avait un petit côté plateau mouvant aussi, avec les canoës qui avançaient.
Ouais.
Bah, c'est un Spiel des Jahres 2000 et quelques. Plutôt sympa, mais voilà, il y avait aussi en fait c'était pas le plateau mais c'était une rivière et il y a des canoës qui avançaient à chaque tour en fonction des actions, ça avançait puis après à bout d'un moment ça tombait dans les chutes, mais voilà, il y avait ce côté un peu qui avance aussi, mais là c'est vraiment tout un monde qui avance et ce côté cycle aussi qui est intéressant, ce côté cycle alternance qui est très intéressant.
On est d'accord. Et Campbell Cascade, effectivement, après, hormis ce mécanisme là en fait il n'y a pas de lien, il n'y a pas de sensation de jeu identique, c'est un shoot'em up en fait, Campbell Cascade. Donc, bon.
Donc après, j'ai fait 4-5 parties là, de Solenia, essentiellement en mode classique. Après, j'en ai fait une en mode avancé, et ça offre vraiment des belles possibilités de renouvellement, soit pour des gens qui auraient beaucoup joué, soit pour des gens qui sont déjà un peu plus experts dans les sensations qu'ils recherchent. Parce qu'il faut savoir que là, les plateaux, en fait, sont tous identiques. Il y a 8 emplacements. Les bonus sont linéaires. C'est-à-dire qu'on est obligé de placer d'abord notre tuile à gauche et de gauche à droite, en fait. Et les bonus se déclenchent de manière successive, mais sans choix de l'ordre des bonus. On a une première version un peu avancée où on retourne le plateau joueur, en fait. Donc là, le plateau classique, c'est la face été, la face soleil. Mmh. Et en fait, on peut mettre sur la face hiver. Donc là, le plateau est un peu différent. Déjà, on n'a que 6 emplacements de ressources au départ. Et ensuite, plutôt qu'avoir 6 et 6 emplacements, on a deux groupes. Enfin, on a des groupes par deux. On a deux niveaux 1, deux niveaux 2, deux niveaux 3. Donc on a 3x2 groupes de en face hiver, en jour et en nuit. Et en fait, on est obligé de commencer par un niveau 1, mais on choisit lequel des deux. On n'est pas obligé de commencer par celui qui est à gauche. Mmh. On choisit lequel on prend. Et ensuite, pour débloquer un niveau 2, il faut que j'ai un niveau 1 déjà débloqué. Donc une fois que j'ai débloqué un niveau 1, je peux débloquer un niveau 2, choisir lequel je débloque. Mmh. Si je veux débloquer le deuxième niveau 2, il faut que j'ai le deuxième niveau 1. Et pareil pour le niveau 3, pour développer un niveau 3, il faut que j'ai un niveau 2. Et donc là, il y a déjà un choix sur l'ordre en fait des bonus qu'on va débloquer. Mmh. Et les bonus sont un peu plus variés et un peu plus... Déjà, les premiers bonus, ça peut être de débloquer des
slots
supplémentaires pour arriver jusqu'à 8 slots supplémentaires. Et ensuite, on va avoir par exemple des ressources infinies aussi. Il y a des bonus qui vont dire, bah là, c'est comme si j'avais tout le temps un eau dans mon dans mon dirigeable, ce qui va permettre de faire des cartes de livraison un peu plus facilement et de moins se préoccuper de certaines ressources. Donc ça, c'est le premier niveau de règles avancées.
Ouais. Mmh.
Mais ça reste symétrique, c'est-à-dire que tous les plateaux des joueurs sont identiques. Même si le choix est différencié, au départ, les plateaux sont identiques.
D'accord. Et alors, juste pour débloquer le niveau 2, là, tu n'as pas besoin d'avoir jour et nuit. Il faut que tu aies le niveau 1 jour pour pouvoir faire le niveau 2 jour, c'est ça ?
C'est ça. Et si tu veux le niveau 2 nuit, il faut avoir le 1 niveau 1 nuit.
D'accord, ok.
Ça marche toujours par jour d'un côté, nuit de l'autre. Ouais, et donc, c'est toujours... Et là, il n'y a plus de bonus, par contre, pour les paires... Il n'y a plus de bonus pour les paires ou pour avoir fait les 6, du coup. Enfin, il n'y a plus de bonus de points de victoire. Ça va être plus des bonus de jeu, dans le jeu, comme je te dis, des ressources permanentes ou voilà, des points de victoire par type de ressources à la fin de la partie. Et l'autre niveau un peu plus avancé, ça va être qu'il va y avoir des tuiles amélioration. Donc là, on va partir en fait avec des dirigeables qui sont...
Ils sont personnalisés.
Ouais, avec des dirigeables qui sont un peu plus personnalisés. C'est-à-dire que sur le premier niveau 1 et sur le dernier niveau 3, plutôt qu'avoir les trucs qui sont imprimés sur le plateau, il va y avoir des jeux de tuiles. Et on va en prendre un jeu de tuiles niveau 1 et un jeu de tuiles niveau 3, enfin un par joueur. On va en mettre 4 de chaque au début sur la table. Et en fait, le dernier joueur va en choisir une, puis le troisième, puis le deuxième, puis le premier. Et on va faire deux tours comme ça. Et donc là, on va choisir ces améliorations qu'on va mettre sur son plateau. Et donc là, c'est des pouvoirs qui sont différenciés. Il n'y a pas deux fois le même pouvoir. Et du coup, on va partir avec des plateaux asymétriques. Donc là, on va commencer à avoir des pouvoirs qui sont assez intéressants, puisqu'il y en a certains qui vont permettre, par exemple, d'aller sur une case de distance, à une case de distance du dirigeable sans payer de ressources. Donc tu pourras aller plus loin dans le dirigeable. Ouais. Tu vas pouvoir faire, par exemple, une tuile livraison jour dans une cité nuit et inversement. Il y a des pouvoirs qui peuvent te permettre de faire des livraisons, peu importe si tu es dans une cité jour ou nuit. Tu as des avantages qui vont te permettre de faire avancer le dirigeable de deux cases au lieu de le faire avancer d'une. Des cases qui vont te permettre, si tu mets sur cette case une pierre, bah, c'est soit une pierre, soit une eau, tu vois. Enfin, c'est des équivalences de matériaux. Enfin, voilà, tu as plein de tuiles d'amélioration. Donc, chacun va avoir un kit différent et ça va vraiment faire une grosse différence en termes de stratégie, en fonction des tuiles d'amélioration qu'on a. Parce que y a des stratégies qui vont être favorisées par rapport à d'autres. Et donc ça, bah, voilà, j'ai fait qu'une seule partie. Mais vraiment, ça renouvelle vachement. Et les stratégies vont être vraiment différenciées en fonction des tuiles qu'on va récupérer au départ.
Mmh. Moi, j'ai fait deux parties, mais en mode classique. D'ailleurs, j'en ai fait la deuxième partie, je l'ai faite il n'y a pas longtemps. J'ai fait dimanche. Mais en mode normal, ouais. C'est vrai que j'ai découvert en fait qu'il y avait un mode
avancé,
avancé.
Du coup il y a deux modes avancés, il y a deux
D'accord.
Deux petits modes avancés. Le premier, c'est juste tu retournes le plateau et du coup là c'est déjà un petit peu différent, et après t'as ces tuiles qui rendent le plateau joueur asymétrique,
quoi. Et ça avait l'air effectivement, ça a l'air quand même vachement plus intéressant de jouer avec ces modes là parce que ça offre des choix en plus. Enfin, on y reviendra après sur notre ressenti, mais je suis un peu mitigé quand même sur j'ai bien aimé mes deux parties, tu vois, mais j'ai un sentiment un peu mitigé quand même sur le jeu, quoi. Et je te laisse continuer.
D'accord. Pour l'instant j'ai pas vraiment de gros points négatifs. C'est vraiment très fluide, ça se joue bien, c'est assez rapide. Je trouve ça agréable. Au niveau de l'ergonomie, le plateau mouvant et les cartes trouées, c'est vraiment
C'est bien trouvé, en
super.
Fait. Ouais.
L'édition est très jolie.
En fait, les cartes trouées, en fait, c'est super con, mais c'est vraiment juste une astuce vraiment ergonomique, hein, parce que finalement, il y a plein de jeux qui faisaient sûrement déjà ce genre de truc, mais
avec la ressource au-dessus, ou voilà, tu mettais.
Parce que l'astuce ergonomique, elle est de dire je prends la ressource qui est sur le plateau, tu vois. Mmh. Et en gros, c'est pas la carte qui définit la ressource, la carte, elle dit juste le nombre, tu vois, elle dit 1, 2, voilà. Mais c'est le plateau qui définit le truc. Et il y a plein de jeux dans lesquels ils auraient mis simplement la carte, voilà, c'est 2, bah, tu poses ta carte, tu prends la ressource qui est en dessous. Mais là, du coup, en fait, c'est tu poses ta carte, tu prends la ressource qui est au milieu de la carte, qui apparaît, du coup, et c'est vraiment super con, mais c'est génial, en fait.
Oui, même dans les bonus, quand les cartes quittent le plateau, il y en a où tu as juste un chiffre et c'est le nombre aussi de ressources que tu vas prendre, et donc là le placement est important, quoi. Enfin, de voir ce qu'il y a au milieu, c'est important pour pas avoir la ressoulever, etc. Non, c'est vraiment très malin. Le matos est assez joli, enfin la boîte La boîte est vraiment bien foutue. Le dirigeable, le petit dirigeable est en 3D, impression 3D. C'est Dominique Breton, du coup, 3D The Blade, qui a conçu ça.
Ah, qui a designé le truc.
Ouais, qui a designé d'accord. le petit dirigeable. Okay. Voilà, c'est un petit dirigeable impression 3D qui est mignon.
Ah,
moi,
les gens à qui j'ai joué, ils le trouvaient, tu vois, un peu banal le truc, quoi. Un peu plastoc, un peu. Moi, je trouvais, enfin, ça faisait bien le job, quoi.
Bah, c'est de l'impression 3D. Tu peux mettre un petit coup de peinture dessus si tu veux un truc un peu plus chaleureux.
Enfin,
quoi.
À la base, c'était l'impression 3D, mais je pense que là, c'est fait à grande échelle.
Oui, c'est fait à grande échelle, mais à mon avis, ça a l'air quand même d'être un procédé d'impression 3D où, tu vois,
c'est un truc je pense pas,
moulé.
Bah, ils font combien on n'est pas d'accord.
je pense que peut-être Dominique avait fait la conception pour le proto et puis qu'ils ont repris la forme.
Ouais, je pensais ça, mais bon, il nous détrompera s'il nous écoute.
Voilà, donc sur l'ergonomie, rien à redire, c'est vraiment une belle édition. Hein. Même les illustrations de Vincent Dutré vont très bien avec l'univers du jeu. Hein, pour moi, il n'y a pas de fausses notes là-dessus.
Ouais, c'est vrai, c'est hyper coloré. Ce que fait Vincent Dutré, quoi. Encore une fois, je vais me répéter. Moi, je suis pas super fan de son boulot, mais en fait, quand ça matche bien, ça matche bien, quoi.
Ouais, c'est vraiment, il n'y a pas d'illustration superflue, par contre, hein, c'est vraiment les cartes, les cités, et puis, le plateau avec les cités, les différentes ressources. Il n'y a pas, même sur la règle, il y a deux, trois petites illustrations, mais il y a une boîte qui est très sobre. Un peu crème comme ça, côté un peu parchemin, avec une belle image côté jour, côté nuit, avec des plantes, et enfin, je trouve ça assez joli. La mécanique correspond plutôt bien au thème, hein. On a cette alternance jour-nuit qui marche bien, cette récupération de ressources autour du dirigeable et cette livraison autour du dirigeable. Il y a peut-être le côté, les cartes qui s'évacuent du plateau, qui est plus difficile à expliquer dans l'adéquation du thème. Hein. Bon, il n'y a pas d'explication vraiment à ça, autre que mécanique, on va dire.
On va l'accepter.
On l'accepte, ça tourne bien. Après, ce n'est pas un jeu où il y a une forte interaction avec les autres. C'est-à-dire que chacun va jouer un peu dans son coin. Il y a quand même une interaction, c'est la seule interaction, on va dire, qui peut être assez grosse, c'est de se faire piquer la livraison qu'on convoitait ou que quelqu'un mette une carte sur un emplacement où vous voulez aller pour récupérer telle ressource ou pour faire telle livraison. Des fois, il arrive qu'il ne reste plus qu'une seule cité nuit avant de passer dans le jour et tu veux faire ta livraison nuit avant de passer dans le jour et quelqu'un s'y met avant toi.
Et d'ailleurs, ça c'est à l'origine d'un sentiment assez désagréable dans le jeu où tu peux te retrouver des fois à subir deux trois fois dans la partie des coups comme ça.
Moi ça m'est arrivé, mais si tu gères bien ton truc ou si tu faut toujours viser plusieurs tuiles en même temps et puis toujours faire un peu de stock. Moi j'ai toujours réussi à rebondir, à trouver une opportunité pour rebondir. Effectivement, ça peut te
l'opportunisme,
ça peut te gâcher un plan, mais je me suis jamais trouvé à me dire merde, je peux rien faire à cause de ça, tu vois.
Rien faire,
à part
non,
dans le dernier tour où ça peut arriver, mais tu peux toujours faire quelque chose et retomber sur tes pattes. Après, c'est plus ou moins compliqué, mais j'ai pas eu cette sensation, moi, d'avoir 3-4 fois de suite des.
La partie que j'ai fait dimanche, par exemple, je me suis retrouvé avec, j'avais plein de ressources, je me fais piquer un contrat. Bon, limite, j'avais un peu anticipé, tu vois, je me suis dit, il y a des chances qu'on me le pique ce contrat. Et puis, tu te dis, c'est pas grave, le suivant, il tombera peut-être bien, tu vois, j'ai plein de ressources. Il tombe et toi, tu peux pas le faire alors que t'as quand même 8 ressources et que toi, il t'en manque une, quoi. Et tout comme ça, dans la même partie, une autre personne qui joue juste avant moi, elle est ce qu'on appelle sous la goulotte. C'est-à-dire qu'il y a une tuile qui est retournée, enfin qui est prise devant elle, une tuile est retournée, pouf, ça match avec ce qu'elle a, alors que pour le coup, elle avait moins de trucs, tu vois. Ouais, mais attends, la tuile a 5 trucs, quoi.
Moi je sais que j'ai rarement 8 ressources dans mon truc, quoi. Je fais en sorte de vraiment être en flux plus tendu que ça et j'accumule pas sans pouvoir je sais toujours ce que je vais faire avec mes ressources et même si ça tombe à l'eau, justement, j'ai toujours 2 ou 3 slots de libre pour pouvoir prendre des ressources pour
Ouais, mais des fois, justement, reprendre, ça veut dire, si tu veux reprendre une ressource ou deux, ça veut dire que le dirigeable, il peut avancer, tu peux te retrouver à repasculer dans la mauvaise partie du plateau. Bref, toi, c'est...
Ah ouais, bah après, si t'es à la limite, voilà. Ça fait beaucoup de circonstances compliquées.
En tout cas, mais... moi, j'ai vécu pas mal de frustrations personnelles et d'autres joueurs autour de la table, toi. Donc, il faut juste en avoir conscience, quoi. Pour autant, comme je disais, j'ai apprécié mes parties, tu vois, parce que j'ai retrouvé un peu, dans ce jeu-là, des sensations de jeu, en fait, ouais, je me remémorais un peu le truc, je retrouve des sensations de jeu qui datent peut-être de, je sais pas, de 2008, 2010, 2012, dans ces eaux-là, où des gens vraiment basés sur de l'opportunisme, où ben ouais, tu planifies des trucs, mais ça va pas forcément marcher, mais il faut te réadapter, et un sentiment que je retrouvais pas forcément dans les jeux de ces derniers temps, où j'étais passé à côté de ces jeux-là, tout simplement, j'en sais rien. Et du coup, ben, malgré ça, hein, malgré tu vois, ce que je dis là, j'ai trouvé quand même pas mal.
Ouais. Alors moi, j'ai pas fait peut-être assez de parties, mais j'ai pas trouvé, pour l'instant. Alors les autres joueurs, je sais pas, on en a discuté, mais personne m'a dit qu'il avait été vraiment frustré ou bloqué de pas pouvoir faire ce qu'il voulait au bon moment. Ça arrive hein, sur un tour, mais plusieurs fois dans la partie, c'est assez rare. Et ouais, moi, j'ai pas eu cette sensation-là pour le coup, pas encore en tout cas dans les parties que j'ai faites. Voilà, donc l'interaction, c'est plus voilà, c'est de l'interaction indirecte de on m'a pris mon truc avant moi, mais c'est un jeu où il faut quand même pas mal jouer sur l'anticipation et sur l'opportunisme des actions qu'on peut faire au moment où on joue. Hein.
En tout cas, c'est clair qu'il faut regarder ce que les autres ont comme ressources pour voir si clairement il n'y a pas un contrat qu'on est en train de viser et qui va fatalement passer avant nous.
Oui, parce que tout est visible. En tout cas, les ressources des autres sont visibles, donc ça, on peut ça peut s'anticiper un minimum.
Ouais, c'est pas un minimum. C'est en général, tu le vois vraiment, quoi.
Après, moi, sur les parties que j'ai faites, ça m'avait l'air pas mal équilibré parce que on n'a jamais eu de gros écarts. C'était toujours joué dans un écart de 10 points. Normalement, ça en fonction du nombre de joueurs, ça varie entre 45 et 60 points, on va dire, dans cette fourchette-là. Voilà, donc 15 points, enfin, c'est... J'ai jamais eu des écarts de moitié de points le premier par rapport au dernier, tu vois. C'est relativement équilibré à ce niveau-là.
Si t'as 60-45, c'est quand même un quart. C'est pas rien, quand même. Mais je suis d'accord que c'est pas non plus des écarts ultra violents. Quoi.
Non, c'est pas des gros écarts. Mais même moi, 60-45, je suis pas sûr de l'avoir eu. Tu vois, j'ai eu du 59-48, tu vois.
Oui, 11, non, mais
12. C'est relativement équilibré parce que tu joues exactement le même nombre de tours. Donc après. Il ne peut pas y avoir d'énormes écarts, tu ne peux pas optimiser, tu vois, tu ne peux pas faire de combo qui va optimiser, que tu vas faire beaucoup plus d'actions que l'autre, etc.
Les parties où il y aura beaucoup d'écarts, c'est les parties où il y aura eu un peu de bol sur certains trucs. Quoi.
C'est ça.
Tous les phénomènes que je t'ai cités tout à l'heure, par exemple. Mais effectivement, ça ne sera pas dans toutes les parties.
Ouais, sur le type de joueur, c'est assez intéressant puisqu'on a ce premier mode classique de base, en fait, qui est assez accessible. Les règles sont assez simples, il y a une bonne profondeur de jeu. Je pense qu'après 2-3 parties, même c'est à partir de 10 ans, ça ne me semble pas déconnant, 10-12 ans, je pense qu'un... Un gamin de 10 ans peut, après quelques parties, un peu comprendre comment fonctionne bien le truc. Et ce qui est bien, c'est que ça peut s'adresser à des gens un petit peu plus joueurs ou à des familles un petit peu plus joueurs avec ces deux modules de règles avancées, on va dire, qui peuvent s'ajouter aux règles de base.
En revanche, je pense qu'il faut le déconseiller quand même aux hardcore gamers qui s'attendent à un jeu à la Pearl Game genre 3.
Oui, c'est pas
pour
aussi.
Pour moi, on est quand même plutôt au niveau de l'Auberge Sanglante, hein, si on reste dans le même éditeur.
Ouais.
Et voire même, je pense vraiment que c'est un cran en dessous quand même. Peut-être que
le mode expert, t'es quand même sur quelque chose de similaire en termes de complexité, je pense.
Comme j'ai pas joué, je peux pas dire, mais c'est probable.
Ouais. T'as pas joué à quoi, à l'Auberge Sanglante?
Au mode expert.
Ah, au mode expert, ouais. Ouais, je pense qu'on est dans le même gabarit. Après, je pense que même en mode expert, tu allonges pas vraiment les parties sur Solenia et donc tu vas être sur quelque chose d'un petit peu plus rapide que l'Auberge Sanglante en termes de durée.
Alors,
l'Auberge
Sanglante,
c'est quand même une bonne heure, hein, une bonne grosseur, je crois.
Ouais. Bah, en revanche, moi, Solenia, la partie qu'on a fait dimanche, c'était quand même vachement plus d'une heure. Donc, quand tu te retrouves à devoir recalculer tes plans ou des choses comme ça, je sais que la partie qu'on avait fait à Bruxelles, où pour le coup c'était, on découvrait, on jouait avec des gens qu'on connaît pas, donc tu vois, on a joué plus hein, là-bas comme je te pousse, quoi. Du coup, on avait fait une petite heure, et la partie de dimanche, je crois qu'on a fait une heure et demie.
Ah ouais, non, mais c'est long, ouais. Parce que...
Après, on est, voilà, on est des joueurs qui réfléchissent, on discute, tout ça.
Ouais.
Mais après, voilà, selon les joueurs à la table, quoi.
T'as pas enfin, les choix sont quand même limités, quoi. Quand t'arrives ton tour de jeu, tu choisis entre 3 cartes et après, tu choisis entre 4 ou 5 emplacements. Enfin, il y a pas. Je suis d'accord qu'il y a, de la réflexion, mais nous, ça a jamais dépassé ouais, entre 10 et 15 minutes par joueur. Ça, c'est
non.
Vraiment,
En fait, nous, on a vécu le côté jeu vaisselle, en fait. C'est-à-dire, en fait, bah, ça arrive à ton tour. De toute façon, ça sert à rien de réfléchir avant, parce que selon les autres, où est-ce qu'ils se sont placés et les contrats qu'ils auront fait, bah, quand ça va revenir à ton tour de jeu, en gros, il y a quand même pas mal de paramètres qui ont bougé. À 4, en tout cas, à 4 joueurs. À 2, ouais. Je pense que c'est beaucoup moins le cas, hein, mais à 4 joueurs, moi, j'ai beaucoup des parties à 4. Franchement, ça servait pas à grand-chose qu'on réfléchisse avant notre tour de jeu. Hein.
Ouais, alors, j'ai pas. Enfin, c'est bizarre, j'ai pas tout à fait les mêmes sensations. Effectivement, tu peux pas tout anticiper. Mais après, le jeu VSL, ça sous-entend aussi que tu attends longtemps avant de rejouer. Et ben nous, franchement, tu joues 16 tours, si ça te prend 45 minutes, 1 heure à 4, ça fait du 3 minutes par tour pour tous les joueurs, tu vois. Donc ça ouais. Fait du moins d'une minute par joueur. Donc en fait, nous, quand on jouait, le tour revenait quand même assez rapidement à toi, quoi. T'as pas cette sensation de pouvoir aller faire autre chose pendant que les autres jouent et puis de réfléchir quand tu reviens. Enfin, moi, j'ai pas eu du tout cette sensation-là. Pour moi, c'est assez dynamique. J'ai trouvé le jeu vraiment très dynamique, justement, sur l'enchaînement des tours.
Les joueurs, en tout cas, enfin, ce qui est sûr, c'est que les joueurs peuvent jouer vite ou lentement. Après, ça, c'est une autre histoire. Là, c'est fonction des joueurs. Il y a rien à dire. Mais le fait que quand ça arrive à ton tour, enfin, en gros, ça sert à rien, quand tu viens de finir de ton tour, de commencer à réfléchir au suivant, enfin, ça sert à rien, ça sert pas à rien. Mais il y a quand même de fortes chances que tu dois revoir ton plan pendant le tour des autres. Donc en gros, ça sert pas à grand chose de réfléchir à ton tour avant que ça revienne à ton tour. Quoi. Après, oui, selon les parties, bah, si vous jouez vite, bon, bah, voilà, ça t'attend 3 minutes, on est d'accord, c'est rapide. Et chez moi, on attend peut-être plus 5, 6 minutes. Quoi.
D'accord. Voilà. Ah, bah, moi, quand tu dis jeu vaisselle, tu vois, ça a vraiment cette notion de tu peux aller faire autre chose avant que ça revienne à toi. Quoi, tu vois.
On s'est pas mis d'accord sur le terme, mais à la base, pour moi, jeu vaisselle, c'est ça arrive à ton tour de jeu.
Tu peux aller faire la vaisselle, quoi. Pour moi, c'est tu peux, t'as le temps d'aller faire la vaisselle.
T'as le temps d'aller faire la vaisselle. En tout cas, t'as pas besoin de suivre la partie.
Ouais. Voilà. Après, je trouve ça quand même, justement, on parlait de suivre un peu ce que les autres prenaient comme ressources et justement faire le lien avec ce qu'ils pouvaient viser comme tuiles. C'est quand même plus facile de suivre ce qu'ils font.
Ah, de suivre quand ils le font, oui.
Quand ils prennent leurs ressources. Pour les nombres de joueurs variantes, donc, comme on le disait, bah, c'est forcément plus rapide et avec un peu plus de contrôle, un petit peu peut-être moins d'opportuniste à 2 joueurs qu'à 4. Ça se joue globalement de la même manière. Hein. Il n'y a pas trop de différence, si ce n'est le nombre de... À 2 et 3 joueurs, on ne met que 3 contrats de chaque sorte au lieu d'en mettre 4. Hein, c'est un peu plus tendu au niveau des contrats. Et du coup, le fait qu'il y ait assez peu d'interactions, si ce n'est la prise de contrat et le placement de cartes, il y a une variante solo aussi, qui est un peu en score attaque, c'est-à-dire que bah, voilà, il y a une grille de score, il faut faire le maximum de scores possible. Et en fait, la seule interaction du joueur fantôme, c'est de jeter un dé. Et en fonction du résultat du dé, il va se placer quelque part, il va placer une de ses cartes, tu pioches la première carte de son paquet, tu joues avec un paquet de cartes joueurs classiques, et il va se mettre sur un endroit en fonction du résultat du dé, un des 6 emplacements autour du dirigeable.
Ok, c'est ça qui sert le dé, hein, parce qu'on
voilà,
a vu un dé
dans
la boîte.
C'est pour placer les cartes en mode solo, et du coup si le joueur solo tombe sur une ville, bah, il va prendre le contrat le plus à droite, en fonction du jour ou de la nuit, il prend le contrat le plus à droite, les autres contrats se décalent et t'en remets des nouveaux. Ce qui fait que, en fait, voilà, il faut que tu fasses gaffe parce que tous les contrats à droite peuvent tomber à n'importe quel moment pratiquement. Et voilà, les cases autour du dirigeable sont aléatoirement occupées par le joueur fantôme. Ce qui permet de faire voilà, un petit. Comme si tu jouais à deux, mais avec un joueur qui joue un peu de manière aléatoire et qui prend toujours la tuile la plus à droite.
D'accord.
Ça permet d'anticiper un petit peu quand même. J'ai pas essayé la variante solo encore, mais bon, ça se joue comme à deux, quoi. Il faut faire le plus gros score possible.
Ça me paraît pas fou, en tout cas dit comme ça.
Non, j'ai pas essayé.
Moi, je joue pas tout seul, de toute façon.
Ouais, c'est forcément moins marrant. Hein. Mais après, tu peux, voilà, il y a le côté, tu veux jouer tout seul et essayer de faire le plus gros score possible, tu vois, sur les...
Non, mais il y a des... Enfin,
Il y a des gens qui aiment bien ça.
C'est ça, il y a des gens qui aiment bien ça. Et il y a aussi des jeux qui sont mieux faits que d'autres. Enfin, en tout cas, il y a des variantes solo plutôt qui sont mieux faites que d'autres. Et
oui, tout à fait.
J'ai pas l'impression comme ça que bon, ceux qui jouent solo nous diront ce qu'ils en pensent. Mmh. Mais...
Bon, après, ce qui est sûr, c'est que mécaniquement, ça marche.
Oui.
A priori, il n'y a pas,
y a pas de raison.
Il n'y a pas de subtilité dans le jeu qui font que bah, tu vas être bloqué ou.
Ça, non, et puis venant de Pearl Game, j'ai aucun doute que toi, mécaniquement, ça doit tourner rond. Hein.
Bah voilà, je crois qu'on a fait relativement le tour. Moi, sur mon avis final, bah, alors que j'ai pas fait encore énormément de parties, mais sur les 4-5 parties que j'ai faites, c'est vraiment un de mes coups de cœur de la fin d'année et puis du début de cette année. D'ailleurs, j'ai terminé 2018 en y jouant le 31. Et c'est un jeu qui, sur les bases du jeu, est assez classique. Hein. Comme tu disais, on revient sur des trucs qu'on connaît, hein, de récupérer des ressources, de gérer un stock et de livrer des ressources. Mais moi, je trouve que c'est vraiment bien réalisé, notamment grâce à la super idée du plateau qui avance là. Les cartes trouvées, enfin la réalisation est vraiment sympa. Et voilà, c'est un jeu qui est relativement, enfin en tout cas que moi je trouve très fluide. Et voilà, c'est un très bon, pour moi c'est un très bon cru de la fin d'année. Qui utilise la mécanique de Black Angel, qui encore, voilà, Black Angel n'est pas forcément accessible à tous, qui a réutilisé, qui a eu le on va dire la bonne idée de réutiliser les aspects mécaniques vraiment originales de Black Angel pour les réinjecter dans un jeu beaucoup plus familial. Voilà.
De mon côté, donc j'ai fait deux parties, hein, donc une sur festival et une donc récemment, hein, donc c'est le hasard du calendrier, mais on m'a proposé, j'ai dit ah bah tiens ouais, c'est cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé mes parties. Tu vois, j'ai fait des reproches, hein, tu vois, des reproches sur le jeu, mais j'ai vraiment bien aimé mes parties. Toi, on me proposerait de refaire une partie. Déjà, je demanderais en mode expert pour voir ce que ça donne.
Ouais, je pense que ça.
Toi, j'ai envie de refaire une partie en mode expert. Le mode normal, tu vois, autant j'ai apprécié mes parties, autant
il peut s'épuiser assez rapidement.
Ouais. Et, tu vois, j'avais hésité à l'acheter. Finalement, tu vois, je regrette pas trop de pas l'avoir acheté. Je serais content, tu vois, d'en faire des parties avec d'autres. Ça me rappelle des trucs, tu vois. Mais en même temps, j'ai vraiment ce sentiment mitigé. Bon, c'était long, tu vois, pour nous. Toi, je te dis, on a fait une partie d'une heure et demie. Pour autant, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Donc, c'est pas gênant en soi. Il faut savoir qu'il y a peut-être des gens qui vont réfléchir un peu plus longtemps et la partie, elle va pas durer 45 minutes. Moi, j'avais déjà constaté en jouant avec toi, hein, je vois bien que toi, tu joues vachement plus vite. Moi, j'ai tendance à vouloir réfléchir, machin, regarder. Lui, il peut faire quoi? Est-ce que du coup, je vais pouvoir faire mon truc ou pas? Voilà, bon. Et puis, il y a eu ces aspects qu'on a vécu aussi à Bruxelles. Hein. Bon, encore une fois, je fais deux parties. Après, peut-être qu'on a pas eu de bol, mais on a vraiment de temps en temps, il y a des joueurs qui subissent un mauvais coup. Un joueur qui non seulement a pris le contrat sur lequel tu étais parti, bon, au bout d'un moment, tu te rends compte, mais le problème, c'est qu'après, il y a des trucs qui sont tournés et ça colle pas, ou ça colle pas. Toi, c'est des contrats à deux, alors tu veux pas faire des contrats à deux parce que tu étais plutôt parti sur une stratégie à faire des gros contrats. Il y a des revirements que t'as pas forcément envie de faire, quoi, tu vois. Il y a des changements de stratégie que t'as pas forcément envie de faire. Du coup, là, tu te sens subir un peu.
Ouais,
et quand tu vois à côté quelqu'un qui, lui, bénéficie d'un contrat qui vient d'être retourné, qui pile son truc, tu fais, oh, putain, j'étais un peu dégoûté, quoi. Voilà. Il y a un peu de hasard dans le jeu. C'est ça qu'il faut se dire, simplement. Il y a un peu de hasard, malgré tout. C'est le côté opportuniste, qu'on retrouve là-dedans, quoi.
Ça fait.
Voilà. Mais pour moi ça reste c'est un bon jeu, quoi.
Ouais, moi c'est vraiment on va dire que c'est une catégorie de jeu, en tout cas une catégorie de complexité, je parle, que je recherche pas mal en ce moment, que ce soit pour le boulot ou pour l'assaut, en termes de durée, complexité. C'est assez facile à expliquer, ça se joue relativement vite et il peut quand même y avoir des couches de stratégique et de profondeur intéressante, quoi. C'est pas un jeu trop bateau, il y a un peu de subtilité, un peu d'optimisation, de gestion à faire. Et du coup, ouais, moi, c'est vraiment une gamme que je cible un peu en ce moment. Et du coup, celui-là est plutôt bien tombé, quoi.
Et c'est vraiment un jeu qui, tu vois, sur ses bases, n'est pas original, mais ça amène quand même un truc, là, cette alternance jour-nuit.
Ouais,
ça amène vraiment un truc, quoi.
Ouais, ce que je disais, la base est très classique, mais vraiment, cette idée-là, le rend vraiment très intéressant.
Ouais. Ouais, en fait, ça amène une contrainte, en fait. Une contrainte qui rend le jeu intéressant. Comme Ganymède, tu vois, est intéressant dans la multitude de contraintes qu'il met en place. Bah là, toi, c'est une contrainte aussi qui est bien, qui amène vraiment du sel au jeu, quoi.
Ouais, tout à fait. Bon, bah, je refais la petite fiche signalétique pour terminer. Donc, je vous ai parlé de Solenia, qui est un jeu de Sébastien Dujardin, édité par Pearl Game, distribué par Asmodée. C'est illustré par Vincent Dutré. C'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties, on va dire, entre 45 minutes et 1 heure. En fait, il faut compter à peu près 15 minutes par joueur. Mmh. Disponible chez Philibert, quand ce sera plus en rupture, à 31,90€. Et voilà, j'ai tout dit.
Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à venir déjà nous le dire sur le site, hein, dans les commentaires.
Ouais, laissez des commentaires.
Voilà, ça nous fait plaisir.
Twin se sent tout seul dans la partie commentaires.
Heureusement, il est pas tout seul, c'est pas vrai. Hein.
C'est pas vrai.
On l'a démontré en intro. Non, mais ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, des fois, on apprend des choses, on a vos retours. Peut-être qu'on a raté des parallèles, peut-être qu'on a raté des petites subtilités sur certaines choses. Donc, on est toujours preneur. Et puis comme ça, on peut faire les retours aux autres auditeurs la fois suivante.
Tout à fait.
Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis même sur Twitter, mais bon, sur le site, c'est quand même plus intéressant pour le suivi. Et puis, si vous avez aimé cette chronique ou n'importe quelle autre d'ailleurs, hein, vous savez qu'on a un Tipeee et un PayPal, donc vous pouvez allègrement vous rendre sur nos pages et puis nous faire un petit don sur ces pages. Voilà.
Eh bien, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Et d'ici là,
jouez bien.